J'estime que c'est certainement un grand privilège pour moi que d'être de nouveau ici ce matin au milieu de vous. Maintenant, Dieu voulant, je retournerai demain matin pour quelque temps en Arizona où il y aura une rencontre. Nous descendrons vers le sud. Écoutez, vous gens du sud, de Géorgie, du Mississippi, du Texas et de l'Alabama, nous passerons par chez vous pour aller jusqu'en Floride. Je vais d'ici à Phoenix, puis en Californie, puis je retournerai à Dallas. Je m'arrêterai peut-être à San Antonio, puis je retournerai en Alabama et en Floride. Ainsi, nous nous verrons très bientôt, si c'est la volonté du Seigneur. Et vous, continuez à prier pour nous et laissez-nous savoir si nous, vos requêtes. Si le Seigneur nous met sur le cœur d'avoir quelques réunions ici l'été prochain, nous reviendrons et nous aussi nous prierons pour vous. J'avais programmé une série de réunions en Scandinavie et beaucoup d'entre vous à New York savent que j'ai eu une vision disant que toutes ces réunions en Scandinavie doivent être annulées. Et vous vous souvenez, n'est-ce pas, de toutes ces réunions qui avaient été programmées. Et alors que j'étais à New York, cette vision vint disant que chacune de ces réunions serait annulée pour une raison quelconque. Je me souviens en avoir parlé à quelques-uns d'entre vous lorsque nous étions à New York. C'est exactement ce qui est arrivé, car tout voulait avoir la rencontre le matin, le même jour, où ils n'ont pas pu obtenir la salle. Cela laisserait donc un moment de libre en juin. J'ai pensé que ce serait peut-être la volonté du Seigneur que je revienne ici parler de ces trompettes, avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez, ainsi, nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien. J'avais cela sur le cœur. C'est donc peut-être ce qu'il veut que nous fassions. Je vois maintenant que vous échangez vos sièges, que vous sortez dans le hall et ainsi de suite. Nous souhaiterions avoir assez de place assise quand nous étudions les trompettes. Nous prendrons l'auditorium du collège. Je crois qu'il y a 5500 places, ce qui permettra à chacun d'entre vous d'avoir un siège et de pouvoir écouter tranquillement pendant que nous prêcherons. Les trompettes sont un très beau message. Les 7 trompettes sonnent au 6e saut, vous voyez, juste avant que le 7e saut n'introduise la venue du Christ. Et ce soir, j'ai un message très important à donner avant le service de guérison. Et si vous êtes là et restez sur place, nous tâcherons de commencer un peu plus tôt à cause de la ligne de prière. Je ne prêcherai pas trop longtemps, mais il y a quelque chose que je dois dire à l'église depuis un certain temps. C'est au sujet du déroulement des événements de ce temps et de la position où nous nous trouvons. Je ferai cela au mieux de la connaissance que j'ai par les Écritures. J'aimerais que vous vous tourniez avec moi ce matin vers le livre d'Ésaïe et vous voulez le noter ou vous en souvenir, j'aimerais lire dans Ésaïe 42. Nous sommes très heureux d'avoir aussi le frère Dao parmi nous ce matin, pendant que vous cherchez la page. Vous savez, l'autre jour, à Shane Forbes, on ne pensait pas qu'il survivrait. Mais il a eu la foi, certainement. Il s'en sort. Le Seigneur le bénit. Voyez, frère Dao a 91 ans. Et il y a eu une défaillance du cœur. Il a eu une défaillance du cœur et même une crise cardiaque. Et même le médecin a dit qu'il ne voyait pas comment il pourrait rester en vie. Le frère Dao est en vie et le médecin est mort. Voyez cela? Frère Dao est là, assis parmi nous. Comme un homme de 91 ans qui a eu une défaillance du cœur et une crise cardiaque. Et tandis que je montais là-bas, je l'ai vu en vision, qui descendait la rue à pied. Je l'ai vu dans l'église en vision. Lorsque je suis allé le voir sous sa tente à oxygène, je lui ai dit, au nom du Seigneur, je vous reverrai à l'église et je vous serrerai la main dans la rue. Et alors, lors du service suivant, il était là, assis là-bas dans l'église, tel que je l'ai vu. Et je suis allé à Louisville, où nous prenons un repas au Blue Board, et en sortant de mon auto, de ma voiture, au moment où j'allais remonter la rue, je vis frère Dao qui la descendait. Tout s'accomplissait parfaitement, comme le Seigneur me l'a montré et l'a dit. Ce soir, nous parlerons de la guérison et de ces choses. J'aurai des choses extraordinaires à vous dire ce soir. Mais maintenant, afin que je puisse avoir les bandes enregistrées, nous voulons aller dans Ésaïe 42 et ensuite dans Matthieu 4. Dans Ésaïe 42, du verset 1 au verset 7. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Il ne criera pas et il n'élèvera pas sa main et il ne la fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas le lin qui brûle à peine. Il fera valoir le jugement en faveur de la vérité. Il ne se lassera pas et il ne se hâtera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre. Et les îles s'attendront à sa loi, à son instruction. Ainsi dit Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ses produits, qui donne la respiration au peuple qui est sur la terre et qui est sur elle, et un esprit à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en justice et je tiendrai ta main et je te garderai et je te donnerai pour être une alliance du peuple, pour être une lumière des nations, pour ouvrir les yeux aveugles, pour faire sortir de la prison le prisonnier et du cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres. Pour faire sortir de la prison les prisonniers et du cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres. Maintenant, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, j'aimerais lire l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Commençons plutôt au verset 12 au lieu du 15. Matthieu 4, nous voulons commencer avec le verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. À Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Et maintenant, voici un curieux petit texte que j'ai entendu dire par quelqu'un, mais je veux le prendre moi-même pour texte. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Ce dont nous avons besoin, c'est de la lumière. Nous allons donc parler de la lumière. C'est la suite des trois sujets que nous venons de traiter à Tucson ou à Phoenix au sujet de la raison de la venue de Jésus à Bethléem. Il devait en être ainsi car il est Bethléem. Beth, c'est la maison. Elle, c'est Dieu. Et M, c'est pain. La maison du pain de Dieu. Et chaque chrétien né en Christ est né à Bethléem. La maison du pain de Dieu. De Dieu. Il est né là où le pain de Dieu est, dans la maison de Dieu, là où le pain est distribué. Prenons l'exemple de David, qui était un fugitif au temps où son peuple l'avait excommunié. Il fut chassé et Bethléem fut assiégé. Les Philistins étaient en garnison autour de la ville. Et David était un fugitif, un type de l'église d'aujourd'hui, de Christ. Voyez, Christ a dû s'enfuir de sa propre église aujourd'hui. Un fugitif est une personne qui a été rejetée. Et David avait été rejeté. Pourtant, il était loin pour être roi. Le prophète l'avait loin. Et pendant ce temps, alors qu'il fuyait son peuple, il avait entraîné avec lui beaucoup de vaillants hommes des nations. L'un d'entre eux tua par l'épée 800 hommes en un seul jour. Alors qu'il neigeait, un autre sauta dans une fosse et tua un lion. Un jour qu'il récoltait des lentilles, ils s'enfuirent tous sauf un qui resta et tua des hommes jusqu'à ce que son bras soit fatigué. Ils ont aussi tué ces géants, frères de Goliath. C'était de vaillants hommes qui s'étaient attachés à David car ils savaient qu'il allait prendre le pouvoir. Ils ont même allé chercher de l'eau pour lui. Ils savaient que quoi qu'on en dise, David était sous l'onction de Dieu. Ils le savaient, quoi qu'on dise de lui. Et ils savaient que David était sous l'onction de Dieu. C'était des hommes, des nations, peu importait dans quelle mesure ils étaient rejetés. Ils savaient qu'il allait prendre le pouvoir. Quel type de Christ pour aujourd'hui? Un fugitif. Vous dites Christ, un fugitif. D'après la Bible, Dieu nous a magnifiquement conduit à travers les sept âges de l'Église. Christ était un fugitif de l'Église de Laodicée qui l'avait rejeté et il s'efforçait d'y entrer. Vous voyez, il est un fugitif de sa propre Église et la messe, et la raison pour laquelle il est fugitif, c'est parce qu'il est la parole et ils ne veulent pas de la parole. Ils ont accepté des doctrines et des credos à sa place. Et des interprétations et des imaginations humaines. Et ainsi, nous découvrons ces vaillants hommes, des nations aux côtés de David. Remarquez, comment fut fondé Bethléem? Je ne veux pas aborder ce sujet aujourd'hui, mais c'est réellement le fils de Rahab, la prostituée qui a fondé Bethléem. C'était une région à blé, une région à bleu. Il y avait là en abondance une eau excellente. Et ils fondèrent la petite ville. C'était la plus petite de toutes les villes. Car le prophète a dit, les toits Bethléem de Juda, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira le gouverneur qui régnera sur Israël. C'est de cette petite ville qu'il sortirait. Lorsque Samuel vint pour oindre un roi, tous les frères de David y étaient présents. Ils étaient beaux et vaillants, paraissant dignes d'être rois. Mais c'est justement sur celui qui était rejeté, David, que l'huile fut répandue. La ville rejetée fut celle que Christ a choisie. C'est ce qui est rejeté que Christ saisit ceux qui sont rejetés. Puis nous découvrons que Boaz engendra Obed, fils de Ruth, qui était des nations. Puis vint Isaïe, de qui naquit David. Et c'est d'une petite étable au flanc de la colline que sortit le roi des rois, Jésus-Christ, le fils de David, son fils spirituel. David lui-même naquit dans la ville. Il devait venir de ce lieu minuscule, de ce lieu fut appelé Bethléem. Ce qui signifie la maison du pain de Dieu. Et Jésus est la maison du pain de Dieu. Et David, étendu ce jour-là sur la colline, regarda en bas et vit les Philistins en garnison tout autour. Il devait avoir chaud et soif et dit, « Oh, si je pouvais boire encore une fois de l'eau de ce puits !» Alléluia. Eh bien, la moindre de ses pensées était un ordre pour ceux qui l'aimaient. Ainsi en est-il aujourd'hui. La moindre des pensées de Jésus, et à plus forte raison sa parole, devrait être un ordre pour nous croyants des nations qui l'aimons. Car nous savons qu'il va venir en puissance, peu importe combien il est rejeté. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole règnera, même lorsqu'il n'y aura plus ni ciel ni terre. Et nous savons qu'il va venir en puissance, car Dieu n'empêchera que cela arrive. C'est le Christ, la révélation de lui-même. Et cela arrivera exactement de la manière dont la parole le dit, car il est la parole. Et au plus petit de ses commandements, si petit soit-il que ce soit d'être rébaptisé, par exemple, ou vos filles, vos sœurs, vos vêtements, etc., et les cheveux, ou autres, nous obéirons de toute manière. C'est son ordre. Et la moindre des pensées de David était un ordre pour ces hommes des nations qui sont un type de l'actuelle Église des nations. C'était de vaillants hommes. Vous voyez, ces hommes qui se tenaient près de David venaient des nations. Mais ils étaient vaillants, ils étaient sans crainte. Ils ignoraient ce qu'est la peur. Un homme prit une épée et tu as 800 hommes qui l'entourait. Quel homme c'était? Un guerrier égyptien accourut avec une lance. Ce soldat de David n'avait qu'un bâton à la main. À l'aide de ce bâton, il désarma l'Égyptien, puis sa lance et le tua. Vous voyez, l'un de ces géants avait des doigts longs de 35 centimètres. Votre doigt a juste la même longueur. Votre doigt a juste la même longueur que votre poing fermé. La main de ce géant avait donc 70 centimètres de long. Mais cet homme des nations s'élança et le tua. Vous voyez pourquoi? C'était un vaillant homme des nations, regardant à loin à celui dont il savait qu'il viendrait au pouvoir. Avez-vous remarqué que lorsque David prit finalement le pouvoir, il fit de tous ceux qui avaient été vaillants des gouverneurs de ville? Jésus n'a-t-il pas promis la même chose? Oui, il en fera aussi des gouverneurs. Et lorsque David souhaita boire l'eau fraîche là-haut, il n'avait probablement qu'une vieille eau stagnante, chaude à boire, mais il se mit à penser à l'eau fraîche de Bethléem, là en bas, la maison du Père de Dieu. Et il dit, si seulement je pouvais boire un peu d'eau de cette source. Et cet homme, dégainé leurs épées et ont combattu les Philistins sur 25 kilomètres, non parce qu'ils l'avaient demandé, mais parce qu'ils savaient qu'ils désiraient cela. Parce qu'ils savaient seulement qu'ils désiraient cela. Et ils ont taillé leur chemin au milieu des Philistins jusqu'à la source. Pendant que deux hommes combattaient, un troisième remplit son seau d'eau. Puis ils combattirent tout le long du chemin de retour et présentèrent le seau à David. Quels hommes vaillants c'était! David, cet homme de Dieu, dit: que Dieu me garde de boire le sang de ses amis qui sont allés au péril de leur vie. Et il l'a répandu sur le sol en libation au Seigneur. Il a dit, donnez-la au Seigneur. Lui seul en est digne, non pas moi. C'est le type même de Christ, avant ayant en lui sa propre vie éternelle. Le rocher frappé qui répandit sa vie sur le sol en offrande pour nos péchés, afin que cette parole puisse vivre. Ô croyants des nations, comme je l'ai dit, qui tirera l'épée avec moi? Il désire une eau fraîche ce matin, et non pas ces vieux credos d'église stagnante et tout ce avec quoi on joue. Il veut une foi véritable en sa parole. Une foi qui croit chaque mot de cette parole. Allons à la source et rapportons-en une boisson rafraîchissante. Et non une adoration basée sur des doctrines et des dénominations et des interprétations, mais une adoration véritable en esprit avec Christ au milieu de nous, vivant sa propre vie comme il le veut, comme il le veut. Cela ne dépend pas de doctrine ou d'autres choses. Recevons-le simplement de cette manière. Nous allons voir ensuite comment Dieu agit sur les gens par le moyen d'un songe. Du temps de Joseph, par exemple. Avez-vous remarqué qu'un songe est quelque chose de secondaire? Dieu travaille, la chose principale, c'est une vision, c'est sa parole. Dieu travaille par un moyen secondaire. Certains peuvent avoir des rêves qui n'ont aucune signification. Il se peut que vous ayez trop mangé. Et que vous ayez un cauchemar. Mais le songe est un moyen secondaire. Pourquoi Dieu protégea-t-il son propre fils par un moyen secondaire? Il a paru à Joseph. Pour le bien de son propre enfant, il a envoyé un moyen de second ordre. Avez-vous déjà pensé à cela? C'est parce qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays. Il devait donc agir par des songes. Et ce n'était pas un songe qui demandait une interprétation. L'ange de Dieu dit, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car ce qui est conçu en elle vient du Saint-Esprit. Ce qui arrivait était une chose inhabituelle. Joseph était un homme juste. Oh, ceci était inhabituel. Dieu est exceptionnel. Et ce qui est exceptionnel est difficile à comprendre. C'est pourquoi de nos jours, il est difficile de comprendre la vérité. Elle est tellement inhabituelle qu'une femme est un bébé sans connaître d'homme. Était tout à fait inhabituel. Mais si vous êtes honnête et sincère, Dieu peut malgré tout vous apparaître en songe. Cela montre que si votre être tout entier est abandonné à Dieu, si tout ce que vous avez, votre intelligence, votre possibilité de siffler, de chanter, de témoigner ou quoi que ce soit est abandonné à Dieu, il pourra l'employer si vous le laissez simplement faire. Il pourra employer ce que vous mettez à sa disposition. Hier soir, frère Neville a prêché sur ce sujet. L'échappatoire, la manière pour l'homme de s'échapper. Et ce matin, j'ai trouvé cela remarquable, que le Saint-Esprit semble vouloir que je continue en traitant le sujet de la lumière. Frère Neville est remonté au commencement, montrant comment la vie de Christ a débuté dans une crèche. Et nous reprenons la même chose avec notre texte. Il ne le savait pas. Moi non plus. Et voici, nous avons ici la même chose. Vous voyez ? Et la chose suivante part du moment où Jésus commença son ministère. Et ce soir, Dieu voulant, nous aurons quelque chose qui se marie tout à fait avec cela. Une grande lumière jaillit comme les gentils qui étaient assis dans les régions de l'homme de la mort. Le peuple de Zabulon et de Naphtali à qui une grande lumière a apparu. La première fois que nous trouvons la lumière dans la Bible, c'est dans Genèse 1, verset 3. C'est la parole parlée de Dieu qui créa la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, souvenez-vous, la lumière vient par la parole parlée de Dieu. La lumière est la manifestation et la confirmation de ce qu'il a dit. Et le sujet dont il a parlé est donc la lumière. Il y a de la lumière, cela vient de ce que... S'il y a de la lumière, cela vient de ce que Dieu a dit. De ce que Dieu a dit. Que la lumière soit. Il n'y avait pas de lumière. Et il dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Ceci est une preuve. La lumière est la justification et la confirmation de sa parole parlée. C'est la même chose aujourd'hui. Une confirmation de sa parole parlée. Quand vous voyez sa parole manifestée ou que d'autres paroles sont révélées et prouvées. C'est la lumière de sa parole parlée. Sans lumière, rien ne peut vivre. Sans lumière, aujourd'hui, sur terre, dans le monde végétal et tout, il n'y a pas de vie en dehors de ce qui vient par la lumière du soleil. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors du Fils de Dieu. Vous voyez, il est la lumière. Maintenant, nous découvrons ici ceci. Je crois que nous allons l'étudier. La terre était informe. Actuellement, ils discutent dans les écoles et autres au sujet du monde qui aurait été créé. Il y a des millions d'années et ils essaient de condamner la Bible et de dire qu'elle est dans l'erreur. Tout simplement, ils ne la lisent même pas. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir ces choses? Parce que la Bible ne nous dit pas quel est l'âge du monde. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un point. Quand? Comment? Cela, nous ne savons pas. Ceci est le début et puis vient un point. C'est la fin de la phrase. Dieu a créé la terre par sa parole. Mais nous ne savons pas quand. Combien de temps ça a duré? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Cela peut avoir eu lieu il y a 100 millions ou billions d'années, ou peu importe. Et comment Dieu l'a fait? C'est lui qui le sait, non pas moi. Mais la terre était informe et vide et les eaux la couvraient. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux et Dieu dit que la lumière soit. Maintenant, je pense que d'après Genèse 3, le soleil et tous ses astres existaient déjà, ainsi que la lune, la terre, était entouré de brouillard et de brume qui l'ensombrissait. Et Dieu dit que la lumière soit. L'obscurité disparut et il y eut un ciel sans nuages. Je crois que c'est ainsi que Dieu fait les choses. Dans la Bible, au verset 4, il est dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et la parole de Dieu sépare au jour toujours la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez? C'est la parole qui accomplit cette séparation entre la lumière et les ténèbres. Dieu agit toujours de la même manière. Quand il s'apprête à utiliser quelque chose, comme il le fit pour cette fameuse étoile, pour le monde ou quoi que ce soit, il doit séparer la lumière d'avec les ténèbres. Quand il s'apprête à employer un groupe de personnes, il doit séparer la lumière d'avec les ténèbres. Quand il s'apprête à employer un homme, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez, la lumière vient de Dieu. Souvenez-vous, la lumière vient par la parole prononcée, parlée de Dieu. La parole de Dieu dit que la lumière soit, alors qu'il n'y avait pas de lumière. Et il envoya la lumière pour séparer les ténèbres de la lumière. De la lumière. Qu'est-ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu de lumière? Mais la lumière était là parce que Dieu l'avait prononcée à l'existence. Cette parole de commandement éclaircit le ciel de façon que le soleil brilla. Et sa parole, aujourd'hui, est ce qui dissipe toutes les brumes de l'atmosphère et l'incrédulité. Sa parole a apparu aujourd'hui et a créé l'atmosphère adéquate. L'incrédulité a disparu. J'ai eu, je crois, 11 interviews juste avant de monter en chair ce matin. L'autre jour, le petit garçon d'un de mes amis, James Paul, a eu, semble-t-il, une crise cardiaque. On l'a conduit rapidement à l'hôpital. C'était une crise d'asthme qui avait frappé le petit garçon. Son petit cœur battait de façon désordonnée et il criait car il ne pouvait pas retrouver son souffle. Il semblait qu'il allait mourir. J'avais l'intention de me rendre à l'hôpital, mais ils l'ont amené ici. J'ai pris sa petite main et j'ai dit, c'est la rougeole qui l'a frappé. Et que la fièvre a frappé notre petite amie. Surveillez-le, je veux le revoir. Dans 2 jours, il sera couvert de boutons de rougeole. Et le voici qui est couvert de boutons de rougeole. Vous voyez? Regardez, Dieu sépare donc les ténèbres avec la lumière ou la lumière des ténèbres. Et il sépare la mort de la vie. Il le fait par sa parole. C'est toujours sa parole qui produit cela. La semence était déjà sur la terre. Je pense que Dieu avait mis la semence en terre. Et dès que le soleil l'atteignit, elle commença à pousser. C'est pourquoi il ne fallut que quelques jours pour produire cela. La semence se trouvait déjà en terre. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de lumière. C'est ainsi que Dieu agit aujourd'hui. Sa semence est déjà là. C'est sa parole. La seule chose dont elle a besoin est que la lumière vienne sur elle. Et il est cette lumière, car il est la parole. La parole et la lumière sont une même chose. La vie qui est en elle est la lumière de la parole. Vous voyez, c'est la vie. Le germe de vie repose dans le grain. La vie est ce qui jaillit du grain. C'est ainsi que Christ, dans la parole, agit de telle manière que la parole fasse ce qu'elle est censée faire en vous. C'est tout comme la vie dans le grain de blé ou quoi que ce soit. Elle fait agir le blé comme il est censé le faire, car la vie est en lui. Ainsi, la vie n'est là que par la parole de Dieu rendue manifeste. La vie ne vient que par la parole de Dieu rendue manifeste. Ainsi, longtemps qu'elle ne se trouve que dans le livre, on peut se poser des questions. Mais quand elle est rendue manifeste, vous voyez alors le produit de ce qu'elle avait dit qui serait manifesté. C'est alors la lumière sur la parole. La parole dit une chose et lorsque cela se réalise, c'est la vie dans la lumière. La lumière apportant la vie. Et ces choses sont rendues manifestes en vous. Et c'est ça la vie, la lumière. La lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé dans une cave et que vous le couvriez, il ne germera jamais parce qu'il ne le peut pas. Il n'y a pas de lumière là. Mais dès que la lumière le frappe, alors la vie se développera. Si c'est une graine possédant le germe, il en est de même avec la parole. La parole est Dieu. Et quand la lumière la frappe, cela lui redonne la vie. Chaque âge a toujours été comme cela. Oh, ça c'est quelque chose de merveilleux à comprendre. C'est ainsi que ça a toujours été. Oh, combien nous apprécions ces grandes choses. Que la parole soit authentifiée comme étant la lumière de la parole parlée. Dieu a dit que la lumière soit. Si Dieu avait simplement dit cela et que la lumière ne serait pas venue, nous n'aurions pas su si cela était vrai ou non. Nous ne saurions pas si Dieu a raison. Nous ne saurions pas s'il est Dieu ou non. Lorsqu'il dit que la lumière soit et qu'il ne se passe rien, vous voyez. Mais quand Dieu dit une chose et que nous la voyons se réaliser, c'est la lumière qui brille, la vérité de la parole. Vous voyez, il y a la lumière et la vie. Toute vie naturelle vient par sa parole parlée. Et le soleil est sa parole parlée. Il a dit qu'il a créé une grande lumière dans les cieux pour le jour et une plus petite pour la nuit. Vous voyez, et toute vie naturelle doit venir par la parole de Dieu. Une fleur ne peut pas pousser ni la lumière de la parole parlée de Dieu. Ne brille pas sur elle, car le soleil est la parole parlée de Dieu quand il a dit que la lumière soit. C'est la vie parlée de Dieu. Et quoi qu'on en dise, cela reste toujours ainsi. Vous devez avoir ce soleil. La vie naturelle ne peut venir que par la parole de Dieu. Et la vie spirituelle. C'est-à-dire que la vie naturelle ne peut venir que par la parole de Dieu. Et la vie spirituelle ne peut venir que par la parole de vie prononcée par Dieu. La vie fut le Fils. Cette fois-ci, en lui est la lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres et il est la lumière parlée de Dieu. N'est-ce pas vrai? La parole parlée de Dieu, car au commencement était la lumière et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais il s'agit que ces choses soient manifestées en nous. Elle est Dieu pour toujours. Vous voyez, il faut que la lumière de Dieu frappe la parole pour la faire vivre en vous. C'est la lumière qui va manifester la vie. Amen. Voici ce qu'il a dit. Que la lumière brille maintenant. Que la lumière brille. Et en sa saison, la lumière amènera chaque parole à sa juste position. Amen. Vous voyez, ce petit grain de blé reposant dans la terre, il reste endormi durant tout l'hiver. Mais quand le temps vient et que le soleil devient plus chaud, il doit vivre. Mais il ne peut pas vivre sans soleil. Et Dieu a dit des promesses pour chaque âge, pour chaque jour. Et quand la lumière devient juste et qu'il faut qu'elle soit et que le soleil brille là-dessus, il se produira exactement ce que la parole a dit, car Dieu est la lumière et la vie. La parole de Dieu ne vient que par la Bible. La Bible de Dieu est le Fils de Dieu, sous une forme imprimée, car la Bible dit que c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est Dieu se révélant lui-même au travers de Christ, et Christ est la parole. Il faut que la lumière de Dieu brille sur cette parole pour l'authentifier, pour prouver que Dieu prononce encore des paroles de vie et de vie éternelle. La lumière naturelle apporte la vie. La vie ne vient que par la lumière. La parole manifestée faite chair. Toutes les promesses de la Bible s'accompliront lorsque Jésus-Christ, la parole, s'incarna parmi nous. Dieu travaille toujours au travers des hommes. L'homme est le sujet de Dieu. Maintenant, si vous trouvez qu'il fait un peu trop chaud ici, vous pouvez ouvrir les fenêtres ou arrêter le chauffage. Le concierge pourrait baisser le chauffage. Je vois que beaucoup ont chaud et il fait chaud ici où je me tiens. Je suis heureux qu'il fasse chaud plutôt que froid, car j'aime la chaleur. La chaleur apporte toujours la vie. Prenez l'exemple du feu. Nous avons besoin de feu. Maintenant, remarquez, lorsque la parole devint chair, elle fut manifestée. Prenez par exemple la parole et mettez-la dans la bonne position, dans la bonne sorte de sol. Elle produira alors la semence de la même espèce. C'est ainsi. Elle produira alors la semence de la même espèce. La parole apportée dans la bonne sorte de cœur se reproduira elle-même. Elle produira la lumière qui jaillira sur lui. Très bien. Rien de ce qui est naturel ou spirituel ne peut vivre sans la lumière de Dieu. Pensez-y. Bien. Mais quand il nous envoie la lumière et fait toutes ces choses et que nous la rejetons, rien de naturel et de surnaturel ne peut vivre sans la lumière de Dieu. Pensez à cela. Mais s'il nous envoie la lumière et que nous la rejetons, ça c'est la partie triste. Vous voyez, ce qui est regrettable, c'est que lorsqu'elle nous est envoyée, nous la rejetions. Maintenant, pourriez-vous imaginer de nos jours un homme qui dirait, je refuse d'admettre qu'il existe quelque chose comme le soleil, que le soleil. Je ne crois pas qu'il y ait un soleil. Et il courait à la cave, fermerait toutes les portes et s'installerait dans l'obscurité et dirait, il n'y a rien qui ressemble à un soleil. La lumière n'existe pas. Vous discerneriez immédiatement que quelque chose ne va pas dans l'esprit de cette personne. Vous voyez? Quelque chose ne va pas s'il descend dans une cave obscure et refuse d'accepter le bienfait de la lumière que Dieu donne. Quelque chose ne va pas avec lui. Il ne veut pas de ses chauds rayons, ni de sa capacité de donner la santé. Il ne veut pas marcher à sa lumière. Il préfère rester dans l'obscurité. Cela prouve que quelque chose va de travers dans l'esprit de cet homme. Et je dis ceci avec tout l'amour et le respect possible. Il y a quelque chose de faux spirituellement lorsqu'un homme retourne aux doctrines de sa dénomination et refuse de voir la lumière de la Bible lorsqu'elle brille juste devant lui dans ce temps. Quelque chose ne va pas avec lui. Il retourne à ses doctrines et à son formalisme. Ferme la porte et dit, cette chose n'existe pas. Le temps des miracles est passé. La guérison divine n'existe pas. Il n'y a rien de tout cela. C'était bon pour un apôtre. Il n'y a plus de baptême de cet esprit. L'homme spirituellement parlant est insensé. Vous croyez, vous voyez, quelque chose ne va pas avec lui. Il a baissé les stores et rejette le Saint-Esprit qui aurait pu venir sur lui. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. La lumière brillant sur cette parole. Demandez ce que vous voulez du Seigneur. Vous voyez? Et cela s'accomplira. Cet homme sera dans l'erreur en rejetant la source que Dieu nous a donnée, sa parole, pour vivre par elle. Le juste vivra par la foi. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Pas seulement d'une partie de la parole qui sort de la main, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc de la parole de Dieu pour ce temps présent. Et quand un homme refuse cela, il y a quelque chose de faux en lui. Quelque chose est faux dans son dans son expérience. Lorsqu'il dit aimer Dieu, mais qu'il le refuse et rejette tout ce qui vient de Dieu. Quelque chose va faire de travers avec cette personne. Nous savons cela sans l'ombre d'un doute. Cet homme rejette cela, se précipite là-bas et dit, je ne veux rien savoir de tout cela. Ne me parlez pas de ces choses. Je n'en crois rien. Peu importe ce que vous dites. Il n'y a pas longtemps, un individu a dit, je vous en ai parlé. Cela m'est égal que vous ameniez 50 cas de cancer guéri et autant de médecins qui le confirmeraient. Il n'y croirait pas. Je n'y croirais pas, dit-il. Cela m'est égal que vous ressuscitiez un mort juste devant moi. Je ne le croirais pas. Vous croyez quelque chose. Quelque chose ne va pas avec cette personne. Et pourtant, cette personne, cet homme était un pasteur. Ou de moins, il était censé l'être, ou bien il voulait en être. Mais simplement parce que cette organisation ne croit pas à la puissance de Dieu, ne croit pas que la parole peut dire exactement ce qu'elle dit. Cet homme se précipite dans sa cave. Cette vieille cave moisie, sale et dégoûtante qu'elle est organisée. Qu'est une organisation. Et il refuse la chaleur et les rayons vivifiants du Saint-Esprit de Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il rejette ce rayon vivifiant du Saint-Esprit. Oui, il y a quelque chose qui cloche avec cette personne. Vous voyez? Il préfère vivre dans ce moisi et cette ténèbre plutôt qu'à la lumière de Dieu et de la Bible qui dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la Bible qui le dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il y a quelque chose de faux avec cette personne. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Et toi, ô homme, qui écoutes ceci quelque part dans le monde, où que tu te trouves, il y a quelque chose de faux dans ton expérience quand tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu refuses sa parole. Il n'est pas étonnant que les promesses de Dieu ne puissent s'accomplir et que l'Église soit dans une telle condition. Car vous ne voulez même pas recevoir la parole ni marcher dans sa lumière. La Bible dit, marchons dans la lumière comme il est dans la lumière. Et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifiera de tout péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Si donc nous marchons dans la lumière que Dieu nous a donnée pour cette heure, Dieu prend cette parole donnée pour le temps présent et la confirme. Comme il le fit dans Genèse 1, verset 3, il dit, que la lumière soit. Et la lumière apparut. La parole apparut d'abord. Puis la lumière suivit, dissipant les brumes. Et les ténèbres se rassemblèrent d'un côté et la lumière brilla de l'autre. C'est ainsi que Dieu agit aujourd'hui avec la parole de l'heure. Il envoie sa parole pour cette heure. Et le Saint-Esprit vient faire vivre cette parole en ceux qui la reçoivent. Les ténèbres continuent dans leur doctrine et leur dénomination, mais la lumière brille car c'est la parole de Dieu, confirmée, prouvant elle-même qu'elle est vraie. Il n'y a rien là de fictif, c'est tout à fait scripturaire, très bien. Maintenant, nous découvrons que les mages, ces hommes sages d'autrefois suivirent ce que Dieu leur avait donné. Ils suivirent la parole de Dieu qui les conduisit vers la lumière. car c'était la parole qui apportait la vie. C'est ainsi qu'ils sont arrivés là où la parole a été accomplie. Or, vous dites, comment suivirent-ils cela? Eh bien, nous savons qu'il s'agissait en quelque sorte de mages, d'astrologues. Et nous découvrons dans Nombre 24, verset 17, que Balaam était lui-même une sorte de mage. Il était véritablement un prophète. Et il prophétisait d'un astre. Il prophétisa qu'un astre s'élèvera de Jacob. N'est-ce pas? Il avait parlé de cela, qu'un astre, qu'une étoile s'élèvera de Jacob. Et quand ces sages virent que la parole de Dieu disait qu'une étoile s'élèverait de Jacob, ils suivirent ce petit signe donné par Dieu jusqu'à la source de la lumière éternelle. Ainsi feront les hommes sages d'aujourd'hui qui ne sont pas aveuglés par les doctrines. Ils suivront la parole parlée, donnée par Dieu jusqu'à ce qu'ils voient la plénitude de la puissance de Dieu florissant jusqu'à cette heure dans son église. Et si des personnes aujourd'hui ne sont pas aveuglées par des doctrines, ils suivront la parole donnée par Dieu jusqu'à ce que Dieu, dans sa plénitude, puisse manifester sa puissance dans son église. Vous voyez, ils le verront et ils sauront que c'est dans les Écritures. Dieu l'a promis pour ce jour-là, pour ce temps présent. Peu importe ce que dire de nombreux observatoires ou autres de ces sages, voyons, mais vous, ils disent, vous êtes fous. Ils voyagèrent pendant 2 ans, ils traversèrent bien des pays. Et on leur disait, mais où donc allez-vous? Oh, nous avons vu cette étoile à l'est. Et nous venons pour l'adorer. Et lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, au quartier général des dominations, personne n'avait la réponse. Les mages parcoururent les rues en criant, « Où est né le roi des Juifs ?» Mais personne ne savait quoi que ce soit à ce sujet, vous voyez. Alors ils cherchèrent dans la parole de Dieu pour trouver. Ils avaient suivi l'étoile, sachant qu'elle les conduisait vers la lumière éternelle. Guide-nous vers ta lumière parfaite. Et c'est la parole qui vous conduit vers la lumière. Et c'est la lumière qui témoigne que la parole est confirmée. Amen. Remarquez que c'était des hommes sages. Et aujourd'hui, les hommes sages, non sages de la sagesse de ce monde, elle est une folie pour Dieu. Vous, tous les savants, et vous, gens qui dépendez des autres écoles, lesquels vous enseignent comment désintégrer un atome. Cela ne vous donne pas la vie. Rien ne peut vous donner la vie si ce n'est la parole parlée de Dieu et la lumière de Dieu. C'est la seule manière par laquelle la vie peut venir. La parole parlée de Dieu. C'est très bien de savoir désintégrer un atome, mais j'aurais mieux aimé qu'on n'eût jamais découvert cela. Pourtant, il devait en être ainsi. Il fallait que soient ouverts ces grands trous dans la terre pour que la lave sorte et régénère ce monde afin de faire une nouvelle terre où le juste marche sur la poussière des méchants et où le péché sera oublié. Tout a une façon de se renouveler. Tout a une façon de se renouveler. En prenant l'arbre de la connaissance au lieu de l'arbre de la vie, l'homme qui avait reçu le pouvoir de vivre sur cette terre par sa propre sagesse détruira la terre que Dieu lui avait donnée pour y vivre. Mais ceux qui ont encore part à l'arbre de vie iront dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre où il n'y aura plus ni maladie ni mort. De la lumière, Seigneur, envoie-nous de la lumière. Ce furent les anges de Dieu qui montrèrent la lumière sur les collines afin de guider les bergers vers la lumière éternelle.
Voyez, la parole est manifestée là où la lumière jaillit et brille. Voyez, cela ne peut provenir que de la lumière. La vie ne peut venir que par la lumière. Les bergers voulaient savoir où le roi est né. Vous savez, lors de la naissance d'un roi, on chante, on organise de grandes fêtes. Mais Jésus naquit si secrètement dans une des tables, dans une crèche où mangeaient le bétail et les chevaux. Et pourtant, il était un roi. Il était le roi. Et les anges sont descendus et rayonnant de lumière ont chanté des hymnes pour les bergers. Les anges étaient eux-mêmes des lumières mettant en vue la parole de Dieu. Ils ont apparu dans cette lumière car ils ont apporté le message de la parole. Et il a été dit à Bethléem, ils avaient la parole de Dieu et ils leur dirent, aujourd'hui dans la ville de David, autrement dit à Bethléem, est né Christ le Sauveur. Les anges avaient la parole et la parole vint sous forme de lumière pour les guider. Et ils suivirent la parole des anges pour aller vers la lumière éternelle. Ils trouvèrent le bébé emmailloté et couché dans une crèche comme cela le leur avait été dit. Car vous voyez, la vie ne provient que de la lumière. Remarquez, il était la parole faite lumière et il devint la lumière. Il était la parole lumière pour cette génération. Car les prophètes d'autrefois avaient parlé de lui et il vint et prouva qu'il était la lumière de la parole prononcée par Dieu. Vous voyez, de la parole prononcée et accomplie que Dieu avait dit. Vous voyez, tout ce qu'avaient dit les prophètes fut accompli en lui. Les prophètes d'autrefois avaient la parole. Ils étaient comme Dieu était au commencement lorsqu'il dit que la lumière soit et la lumière vint. Puis le prophète dit, une vierge concevra et donnera naissance à un fils. Ils l'appelleront Emmanuel car il sera Dieu avec nous. Il l'avait annoncé, la parole était lancée, mais il était la lumière. Que fut-il? C'est-à-dire l'accomplissement, alléluia. Il fut l'accomplissement de cette parole, il fut la manifestation de cette parole. Il fut la lumière, alléluia. Il en est ainsi aujourd'hui. Il était la manifestation de cette parole. C'est ainsi encore aujourd'hui. La parole de Dieu s'est accomplie à cette heure. À cette heure. Et ça, c'est la lumière qui a été manifestée. C'est Dieu se manifestant lui-même. Il était la lumière du monde. Et lorsque le prophète, inspiré par le Saint-Esprit, dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, son nom sera conseiller, prince de la paix, Dieu tout-puissant, Père éternel. Voilà, qu'était-il? La lumière qui accomplissait cette parole. Amen. Elle devait s'accomplir. La lumière qui accomplissait cette parole. Et la lumière est descendue quand la parole a été confirmée. Dans Matthieu chapitre 28, nous découvrons que lorsque Jésus ressuscita d'entre les morts, il était aussi la lumière de la parole prononcée par David qui a dit, « Je ne laisserai pas son âme dans le séjour des morts. » Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. La parole était dans les ténèbres, mais elle rompit les sceaux de la mort, descendit dans ce lieu et en ressortit. Il était la lumière, la confirmation de la parole qui dit que les morts peuvent revivre avec leur mort, après leur mort. Certainement, il était le jour. Certainement, il l'était. Le jour de Pentecôte, ce fut la lumière qui montra que le Saint-Esprit était venu. Ésaïe dit au chapitre 28, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Tiens ferme ce qui est bon, car c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Et voici le repos, voici le sabbat de repos que je vous donne. Mais Ils ne voulaient pas écouter. Et ceux qui n'ont pas voulu écouter, ils s'en allèrent en hochant la tête. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Et le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit tomba sur ces gens et qu'ils agirent comme des hommes et des femmes ivres, titubants, titutant sous l'impact du Saint-Esprit, de vin nouveau, plein de vin nouveau, dans de nouvelles outres. Mais c'était absolument la lumière, la parole qui avait été prophétisée et rendue manifeste. Ça a été la lumière, c'était la parole devenue chair en eux. Il en est ainsi dans chaque âge. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. La parole qui vient à la vie est la lumière qui est rendue manifeste dans l'âge bien précis. La parole rendue manifeste qui prend vie est la lumière pour cet âge. La parole rendue manifeste qui prend vie, c'est la lumière pour cet âge. La parole rendue manifeste, tout comme dans Genèse 1, lorsque Dieu dit que la lumière soit et qu'il y eut de la lumière. Lorsque Dieu dit ici qu'il y aura un fils et qu'il y eut un fils. Dans Joël, par exemple, 2, verset 28 et Actes des Apôtres 2, verset 17 et 18, Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Même sous les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et quand le Saint-Esprit tomba sur eux, toutes ces choses qu'il avait promis, étaient la lumière sur cette parole. C'est ainsi. Et quand le Saint-Esprit tomba sur eux, toutes ces choses qu'il avait promises étaient la lumière sur cette parole. Lorsque la parole fut manifestée, elle devint lumière. Il est la lumière, il est la lumière que nous devrions suivre. Il est la seule lumière. Les mages ont trouvé la lumière et l'ont suivie jusqu'à ce qu'elle les conduise vers lui. Dieu a toujours envoyé une portion de la parole pour chaque âge. Il a aussi envoyé quelqu'un dans lequel la parole puisse entrer pour montrer la lumière qui est en elle. Il fait la même chose dans chaque âge. Il a toujours agi ainsi. Il était l'accomplissement, comme je l'ai dit, de tous les saints pouvoirs divins des prophètes. Ils étaient des dieux mineurs. Jésus lui-même disait que quand la parole du Seigneur venait à un homme, celui-ci était un dieu. Vous savez cela? Il a dit, si votre loi et vos pères ont appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Jean 10, verset 35 à 36. Vous voyez, Dieu lui-même qui a donné la parole par les prophètes était la manifestation de cette parole prononcée par les prophètes. Vous voyez? Et si le prophète était appelé Dieu parce qu'il était la manifestation de la... Si le prophète était appelé Dieu parce qu'il était la manifestation de la parole d'un autre prophète, comment pouvez-vous le condamner alors qu'il était la même chose? Il était le Fils de Dieu. Il devait être appelé Fils de Dieu. Il était le Messie promis depuis longtemps et que le monde attendait. Il était la manifestation du Messie promis. Il était la promesse elle-même accomplie. Regardez-le. Le tandis qu'il se tenait là et dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors condamnez-moi. Vous voyez? Mais si vous ne pouvez pas me croire, croyez ces œuvres que je fais. Elles rendent témoignage de qui je suis. Elles vous disent qui je suis. Mais à cette époque d'obscurantisme et d'aveuglement dans laquelle il vivait, il ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait tout simplement pas comprendre comment Jésus pouvait être le Fils de Dieu. Comment pouvait-il être un Fils de Dieu alors qu'il était né à Bethléem? Si seulement ils avaient su que la parole avait dit qu'il viendrait de cette manière à Bethléem. C'est même écrit. Voyons son père. Ils disent Joseph était charpentier, sa mère, eh bien, parmi nos frères, on croit que c'est un fils illégitime. Vous voyez? Et pourtant, c'est ce que la parole disait. Il dit, sondez les Écritures, car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent de qui je suis. C'est ce que disent les Saintes Écritures. Qu'était-il donc? la lumière de Dieu. Rien d'étonnant de ce qu'il a dit. Je suis la lumière du monde. Je suis l'accomplissement de ce que Dieu a prononcé par les prophètes. Il n'a pas seulement dit, je suis la lumière, mais il a aussi dit, vous êtes la lumière. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Si sa parole est en vous et que vous rendiez témoignage, alors vous êtes la lumière du monde. C'est peut-être donc que le Seigneur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que sa parole soit en vous et que vous rendiez témoignage. Alors vous êtes la lumière du monde. Vous êtes aussi une lumière manifestée. Remarquez. Nous découvrons maintenant que la lumière de chaque âge a été manifestée de la même manière. Maintenant, j'aimerais vous poser une question avant la fin de cette réunion. Pourquoi ont-ils éteint cette lumière? Pourquoi l'ont-ils rejetée? Comment ont-ils pu faire cela alors que la Bible même qu'ils lisaient la rendait manifeste devant eux? Approfondissez-vous. Approfondissez bien cela. La Bible qu'ils lisaient était accomplie devant eux. Maintenant, souvenez-vous, je parle à bien des personnes en ce moment, non seulement aux 4 ou 500 qui se trouvent ici, mais à plusieurs milliers qui recevront cet enregistrement. Arrêtez la bande une minute et posez-vous cette question. Pourquoi les hommes de bien, des hommes religieux, pourquoi Joseph a-t-il douté? Parce qu'il n'avait jamais sondé les Écritures. Pourquoi les prêtres les ont-ils mis en question? Ils pensaient, nous savons déjà tout. Ce n'était pas pour la même raison. Eux, ils les connaissaient. Nicodème a bien exprimé lorsqu'il a dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu accomplis si Dieu n'est avec lui. » Nous sommes conscients de cela. Mais leur tradition les empêchait d'agir. C'est pour cette raison qu'ils ont rejeté le Messie. Pourquoi ont-ils alors rejeté le Messie? Pourquoi ont-ils rejeté cette lumière? Ici se trouvait la parole dont ils savaient qu'elle allait s'accomplir. Mais lorsque la parole de Dieu fut manifestée afin de montrer que la parole de Dieu avait été accomplie, comparé avec aujourd'hui, vous voyez, quand il est écrit dans la parole que ceci alors s'accomplit, que ceci allait s'accomplir. Pourquoi alors ceux qui enseignent ont-ils rejeté cela? Parce qu'ils vivaient à la clarté d'une autre lumière. C'est cela. Ils vivaient dans un reflet. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils vivent dans le passé. Ils vivent. La raison pour laquelle ils le rejettent est qu'ils vivent dans le reflet d'une autre lumière. Vous voyez? Il vivait alors dans le reflet de ce que Moïse avait dit. Prétendait-il? Il vivait dans le reflet de ce qui s'était passé dans un autre âge. Et c'est la raison même pour laquelle on rejette aujourd'hui ce message annonçant que Jésus-Christ est toujours le même, parce que les gens vivent dans le reflet d'autres âges. C'est pour cette même raison qu'ils le rejettent et ils veulent être dans la lumière d'un âge passé. Par exemple, Webster dit qu'un reflet est une espèce de fausse lumière. Un reflet est une fausse lumière. C'est une tromperie, ce sont des reflets. Ce n'est pas la chose vraie. C'est comme un mirage sur la route. Vous suivez la route, beaucoup d'entre vous conduisez. Et devant vous, vous voyez un reflet du soleil sur le sol. Il reflète une lumière. Et comme dans un mirage, la route semble couverte d'eau. La route semble couverte d'eau. Mais lorsque vous arrivez là, il n'y a rien. C'est un mirage. C'est le reflet d'une vraie lumière. C'est ce que fait le démon. C'est une fausse lumière. C'est ce que fait le diable aujourd'hui. Il fait miroiter un mirage. Le conseil des églises, un groupe de dénominations qui se révèle être faux. Il en est ainsi parce qu'une vraie lumière brille. Si elle ne brillait pas, il n'y aurait pas de mirage. Une vraie lumière brille. C'est à cause de cela qu'ils vivent dans le reflet d'un autre âge, d'une autre chose qui a existé, mais qui est passée. Mais ce reflet, ce mirage est faux. C'est un reflet du soleil et c'est ainsi qu'ils ont fait la même chose. une fausse clarté de la vraie lumière. Maintenant, il a été une telle chose, un tel mirage, un tel reflet n'est pas vrai. En fait, c'est un reflet de la vraie lumière. Mais ce n'est pas dans le bon contexte. Maintenant, il a été prouvé que Jésus était la vraie lumière. Il était la lumière. Comment ont-ils su qu'il était la lumière? Comment pouviez-vous savoir qu'il était la lumière? Justement parce que la parole promise a été rendue manifeste en lui. Et c'est ainsi qu'il était la lumière de cette parole prononcée. Amen. Oh, cela provoque en moi un cri de joie de pentecôtiste baptiste. Un cri de joie de la Pentecôte. Pensez-y, un reflet, vous voyez, vivre dans un reflet. Mais quand ce que Dieu dit, la vraie parole est vivant. La vraie parole est vivant. C'est la lumière. Quand elle est manifestée, c'est la lumière. Comme le jour de la Pentecôte, c'est la lumière. Quand elle est accomplie, quand on peut dire, ici s'accomplit ce que le prophète Joël a dit. Par exemple, supposons que Dieu ait dit au commencement que la lumière soit et que quelque chose d'autre soit apparu. Simplement un mirage. Vous voyez, cela n'aurait pas été ce qu'avait dit Dieu. Non, certainement pas. Que serait-il arrivé si Dieu avait dit qu'il y ait la lumière et qu'il y aurait eu davantage de brouillard? Cela n'aurait pas été la lumière. Mais la raison pour laquelle la lumière vint est qu'elle fut la manifestation de sa parole. Et de nos jours, quand Dieu a dit qu'une chose déterminée arriverait, et à un tel moment, et que vous le voyez s'accomplir, qu'est-ce donc? C'est la lumière venue sur la parole de Dieu. C'est la parole, cette lumière qui se manifeste. Ils lui demandèrent, qui dis-tu que nous sommes? Qui dis-tu que nous sommes? Ils lui dirent, nous savons que tu es fou, que tu es un Samaritain. Tu n'es pas dans ton bon sens. Tu essaies de... Nous savons que tu es né dans le péché. Nous ne savons pas d'où tu viens. Nous n'avons pas ta carte de membre dans nos groupes. Tu es fou. Tu es un démon. Vous voyez? Tu n'es pas dans ton bon sens. Pourtant, il était réellement la lumière authentique et véritable de Dieu qui brillait. Mais le reflet les avait aveuglés par les démons. Ils disent, nous avons pour guide Moïse. Ils disent, si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez cru, vous m'aurez connu. Et si vous croyez Jésus et la Bible, comme vous le prétendez, vous reconnaîtrez l'heure dans laquelle vous vivez. Et vous reconnaîtrez ce que Dieu a dit dans sa parole pour cette heure dans laquelle nous vivons. Vous voyez? Vous reconnaîtrez la manière d'agir de Christ. Aujourd'hui, ils disent, nous sommes chrétiens. C'est la même chose. Si vous l'étiez, vous reconnaîtrez les actes de Christ pour ce jour. Vous voyez, vous les auriez reconnus si vous étiez réellement chrétien. Jésus dit, tous les prophètes ont parlé de moi. Et si vous aviez cru ces prophètes, eh bien, vous m'auriez reconnu. Mes œuvres m'identifient, car ce qu'ils ont annoncé que je ferai, je l'accomplis. Et qui maintenant peut me convaincre d'incrédulité. Et pourtant, ils ne l'ont pas vu. Pourquoi? Ils étaient éblouis par un reflet. Le reflet de quelque chose d'autre qu'ils avaient pris pour la parole parlée, pour la parole prononcée véritable. Pensez-y. Ils prétendaient croire cette parole. Mais leur tradition avait détourné leur face de la vraie parole vers un reflet. Et c'est ainsi, c'est encore la même chose aujourd'hui. Leur doctrine les a découpés de la parole véritable accomplie. C'est peut-être qu'ils ne pouvaient pas voir la lumière manifestée. Ils ne pouvaient donc pas voir la chose réelle. Il en est ainsi de ce jour. Il en a été de même dans chaque âge. Vous voyez, la parole brille, mais ils sont tellement remplis de leur tradition qu'ils ne peuvent pas voir cette parole. Vous voyez? Ils regardent à un reflet et sont aveuglés. Et Jésus a dit, vous êtes aveugles et vous conduisez des aveugles. Un reflet pour un reflet vous aveuglera toujours. Il en sort un arc de lumière qui vous aveuglera. Jésus dit, vous êtes des aveugles conduisant d'autres aveugles. Et c'est ainsi. Ils auraient dû être capables de comprendre cela, de voir qui il était. Mais ils ne le purent pas car ils vivaient dans ce reflet. Comme je l'ai dit, un reflet est une fausse lumière, un mirage. Une fausse conception de la vraie lumière, une fausse conception. C'est quelque chose qui est censé lui ressembler, mais ce n'est pas la chose authentique. Maintenant, la seule manière pour eux de faire la différence était de voir que les choses même que Jésus faisait prouvaient bien qu'il était la lumière. Il pensait être dans la lumière. Mais si nous nous arrêtions juste une minute et considérions qui, en fait, et nous posons la question, mais en fait, qui est dans la lumière? Aujourd'hui, si de nos jours les ecclésiastiques commettent une telle erreur de raisonnement, frère, ne pensez-vous pas qu'il serait temps de nous arrêter? N'est-ce pas? Si de nos jours les ecclésiastiques commettent une telle erreur de raisonnement, frère, ne pensez-vous pas qu'il serait le temps de nous arrêter et de considérer nous-mêmes ce qu'est la lumière et de nous poser la question, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité et la lumière? Ne commettons pas une telle erreur de raisonnement, frère. C'est pourtant ce que vous faites, vous l'avez déjà commise sans le savoir. C'est la même chose qu'alors. Arrêtons-nous une petite minute et cherchons ce que dit la parole pour aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible a promis pour aujourd'hui? Si seulement ils étaient arrêtés, ils s'étaient arrêtés pour réfléchir et avaient pensé. Le voici accomplissant à la lettre exactement ce que la parole avait dit qu'il ferait. Et il l'est mis au défi, comme je le fais avec vous. Je vous mets au défi de regarder dans la parole. Sondez les Écritures. Voyez si ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas l'heure. Sondez les Écritures. Car vous vous estimez avoir en elle la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. Ce sont elles qui rendent témoignage de cette œuvre aujourd'hui. Ces œuvres même démontrant que cela a été accompli. Et l'Écriture dit que cela s'accomplira. C'est pourquoi nous avons la lumière de cette heure. La parole de Dieu le dit. Vos traditions et autres sont exactement comme la Bible disait. Vous agissez comme ceux qui hochèrent la tête et s'en allèrent. La Bible dit que les tables furent couvertes de vomissements. C'est ainsi qu'ils agissent et qu'ils agirent. Autrefois, ils ne voulaient pas croire, ils hochèrent la tête. Vous, gentlemen et frères, réalisez-vous que lorsque vous rejetez cette chose même que Dieu a confirmée devant vous, vous faites la même chose que vous revenez au vomissement de vos traditions. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi. S'il en a été malade de la première fois, il le sera aussi la seconde fois. Si l'organisation des catholiques, car ce sont eux qui ont fait la première organisation, a rendu malade l'Église, alors l'organisation des luthériens, des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des pentecôtistes et de toutes sortes d'organisations, toutes les autres églises le feront de même. Un chien retourne à ce qu'il a vomi et une truie à sa fange. Vous voyez, nous allons parler de cela dans quelques minutes, Dieu voulant. Il marche, un reflet marchait dans un reflet, un mirage, une fausse conception de la vraie lumière. Il a prouvé qu'il était la lumière. Comme il était en quelque sorte en minorité, comme ils étaient en sorte une minorité à accepter. Des millions de gens étaient contre lui. Pas un sixième de la population, même pas un neuvième des habitants de la terre savaient ou ont jamais su qu'il était là. D'après ce que je sais, pas un juif sur 40 ou 50 dans son propre pays peut peut-être même seulement 1 sur 100, ou même moins, a jamais su qu'il était là. Et ceux qui le surent le considérèrent comme un imposteur, parce que la dénomination leur avait dit qu'il l'était. Et pourtant, il était la vraie lumière dont il avait été parlé dès le commencement, depuis la Genèse. Il leur demanda de sonder les Écritures afin de voir s'ils ne devaient pas vivre juste à cette époque et si les œuvres n'accomplissaient pas exactement ce qui avait été promis pour ce temps. Que c'est sérieux, frère. Nous vivons à une époque terrifiante. Il a été prouvé qu'il était bien celui qu'on attendait. Il était la lumière même qu'il prétendait adorer. Il prétendait adorer cette lumière. Il en est de même aujourd'hui. Ils prétendent adorer cela. Les pentecôtistes le prétendent. Ils le prétendent, mais ils sont tellement aveugles qu'ils ne peuvent pas le voir. Pourquoi? Ils se sont organisés. Ils se sont mis en reflet devant leur visage. Vous voyez? Ils se sont mis un reflet devant leur visage. Vous voyez? Une tradition est composée de ce que certaines personnes ont mis ensemble. Ensuite, elles disent, nous irons faire ceci et encore cela. Dieu voulant, nous allons en venir à la raison pour laquelle cela devait arriver. Remarquez, ces œuvres étaient la parole vivante elle-même, démontrant qu'il était cette lumière promise dès la fondation du monde. Il était la lumière sur la parole promise pour cet âge. Le fit vivre exactement comme la promesse disait qu'il ferait. Mais ils l'ont tellement falsifié qu'ils n'ont pas pu le voir. Vous voyez? Pourtant, il était la lumière de cet âge. Il prétendait le servir. Mais lui, il était la lumière qu'il prétendait adorer. Il pensait adorer le Dieu même de la création. Mais il vivait dans un reflet et l'adorait. Et adorait le reflet dans lequel il vivait. Jésus dit, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Marc 7, verset 7. Lui, il est la parole et il était la parole manifestée. Ils auraient dû le savoir. J'espère que partout où ce message pourra pénétrer, on comprendra que c'est la manifestation de cette parole. Ils disent, nous avons la parole. Oui, la parole. C'est vrai, n'importe qui peut prendre une Bible s'il le veut et l'avoir sur lui. Mais quand la parole est confirmée, manifestée, alors c'est une lumière qui est manifestée. Alors, si vous l'acceptez et la reconnaissez, alors vous êtes vraiment ceux qui croient. Ils disent, eh bien nous croyons. Bien sûr, ils croient toute la parole. Ils disent, eh bien, nous croyons, bien sûr. Ils croient toute la parole. Eh bien, Satan aussi, oui, qui pouvait accuser ces pharisiens de ne pas croire. Mais ils ne crurent pas la parole donnée pour cette heure. Ils adoraient le reflet de quelque chose d'autre. Ils font la même chose aujourd'hui. Vous gardez les traditions de Luther, de Wesley, de la Pentecôte. Mais qu'en est-il de cette heure-ci? Les pharisiens gardaient leur tradition, mais derrière celle-ci se trouvait la vraie parole de Dieu qui rayonnait. Et lorsqu'elle le fit, elle les aveugla. Ils ne pouvaient pas la voir parce qu'ils observaient autre chose. Il en est de même aujourd'hui. Oh, que Dieu laisse cela s'imprégner jusqu'à ce que cela pique au vif celui qui le croira. Il est plus tard que vous ne le pensez. Mon fils Billy Paul parle dans son sommeil, mais il ne rêve pas très souvent. L'autre nuit, il a fait un rêve qui l'a impressionné. Il a dit avoir rêvé qu'il était à l'église et que je n'étais pas encore arrivé. Il dit que lorsque je suis entré, des flammes sortaient de mes yeux et que je dis, c'est maintenant, le temps est là. C'est terminé et que tout le monde se mit à crier et ils ont dit, oh, Et mes enfants, alors, laissez-moi le temps d'appeler mes parents. Ma femme dit, je ne peux pas laisser Sarah demander la bénédiction à table, etc. Billy dit, je dois aller chercher Loïc et le bébé. Je dis, Loïc ne peut pas venir maintenant. Le bébé est trop jeune pour savoir. Billy, c'est l'heure. Nous devons aller. J'ajoutais, il est minuit avant le lever du jour. Jésus sera là. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux témoin de Christ. Et quelqu'un éleva la voix et dit, nul ne connaît la minute ou l'heure. Et il a dit que je n'ai jamais indiqué de minute ou d'heure. J'ai dit avant le lever du jour. Et je dis, partons Billy, c'est le moment, partons. Et nous sommes montés dans la voiture et sommes partis. Nous commençâmes à gravir une montagne. Et à ce moment-là, il sembla que la lumière se levait, mais le ciel était sombre au-dessus de la terre. Billy dit que je m'arrêtais au bord de la route, levais les yeux, ainsi que les flammes continuaient à jaillir de mes yeux. Il dit que j'ai prononcé ces paroles. Seigneur, j'ai fait cela à ton commandement. J'ai fait cela simplement parce que tu m'as dit de le faire ainsi. J'ai fait ces choses selon ce que tu m'as dit. Et je fis signe à une grande montagne de granit. Une lumière sans l'aide d'aucune main détacha une pierre de la montagne. Cette pierre pesait des tonnes et elle se mit à rouler. Je dis, tourne la tête, ne regarde pas. Tout sera fini dans quelques minutes. Il dit qu'alors un grand et saint silence s'établit partout pendant que cette pierre venait se mettre en place. Il est peut-être plus tard que nous pensons. C'est tout à fait scripturaire. Vous voyez, cette pierre détachée de la montagne sans l'aide d'autres mains. Un de ces jours, il en sera ainsi et vous aurez des raisons de crier. Je lui dis, vous avez déjà eu ce temps. Jour après jour, Dieu vous a constamment donné des avertissements. Oui, même s'il s'agit de mon propre fils, l'heure est là. Je ne puis dire que ce qu'il m'a dit de dire. Et cela a été. Et j'ai dû avertir mon propre fils. Et alors, soudain, voici qu'il vient une pierre se détachant de la montagne sans l'aide d'aucune main. Daniel avait vu cela bien des années auparavant. Vous le savez, Billy n'en savait rien. Mais c'était un rêve que lui envoya le Seigneur. Voyez, ils prétendent adorer ce Dieu, même dont ils se moquaient. Et j'ai dû reprendre mon fils et je lui ai dit de mettre sa vie en ordre et de prendre les choses au sérieux. Les choses de Dieu au sérieux. Et la même chose arrive aujourd'hui pour la même raison. Ils vivent dans un reflet au lieu de vivre dans la lumière. Toutes les grandes lumières ont un reflet, c'est vrai. Regardez dans quelles ténèbres nous nous trouvons aujourd'hui. Observez ce qui se passe. Voyez tous ces meurtres, ces viols, ces querelles. Cela devrait arriver. Je crois que c'est Billy Graham qui a dit que de sa dernière réunion que d'ici 10 ans, chaque habitant de la Californie devrait porter un revolver pour se défendre. Vous ne pouvez pas ordonner de sanctions. Vous ne pouvez pas ordonner de sanctions légales suffisantes. Les gens sont devenus fous. Des fusillades, des meurtres et des viols, etc. La loi de la jungle règne dans les rues. Voilà le jour dans lequel nous vivons. C'est un jour sodomite, vous voyez. Mais une lumière brille. Si seulement il voulait regarder dans la parole et voir ce qui est censé arriver à cette heure-ci dans laquelle nous vivons, il saurait ce qu'on peut essayer de faire. Maintenant, ils prétendent adorer cette lumière. Autrefois aussi, ils prétendaient adorer cette lumière. Mais au lieu de la vraie lumière, ils adoraient un reflet. Vous voyez, ils étaient la lumière. Leur credo, leur tradition, leur doctrine et leur aveuglement les avaient détournés de la vraie lumière et de la parole promise. La parole que Dieu a confirmée par Jésus. La lumière du monde vint et s'adapta exactement à son époque, au jour de Dieu. Et le psaume même de David dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os se séparent. Ils me, Il me divise, il me dévisage, il secoue la tête et se détourne de moi. Psaume 22. David chanta ce psaume par l'esprit 850 ans à l'avance et il était considéré comme une prophétie. Il chantait ces psaumes et ils ont rejeté la lumière dans le temple alors que ce sacrifice même était pendu sur la croix, les mains percées. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Vous voyez cela? Pendant qu'ils l'ont fait, ils chantaient ce psaume dans le temple. Pourquoi? Ils vivaient dans un reflet. Ils ne virent pas la lumière. Pouvez-vous imaginer une personne censée agissant ainsi? Non, pas plus que je ne puis imaginer une personne censée courant à la cave, s'installant dans la moisure, dans la moisissure, fermant les portes et disant, je refuse de voir qu'il y a de la lumière. Ce serait insensé. Et si un homme voyant que la Bible a promis cela, le voyant s'accomplir droit devant lui et se manifester, demeure continuellement dans ses credos et doctrines et autres croyances qui rejettent la Bible, cet homme a déraillé spirituellement. C'est de la délinquance spirituelle. C'est exactement cela. Il était là. Il était la lumière du monde. Il vint vers les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Il vint dans le monde. Le monde fut fait par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Vous voyez, mais à tous ceux qui l'ont reconnu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu à ceux qui ont cru en lui. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas vivre dans la lumière du jour précédent. La lumière d'hier est passée. Elle n'existe plus. La lumière d'hier n'est plus qu'un souvenir. Le soleil d'hier n'est plus qu'un souvenir. C'est de l'histoire ancienne. Nous ne pouvons pas vivre de la lumière d'hier. Bien qu'il s'agisse du même soleil, chaque jour, il est un peu plus fort afin de faire mûrir le blé pour la moisson. Le soleil est chaque jour un peu plus fort. Chaque jour, il deviendra un peu plus fort jusqu'à ce que finalement le blé qui repose là prenne vie. Après un temps, la vie va se développer. Chaque jour, le blé se fortifie un peu plus. Mars, avril, mai, juin, juillet se passe. Et c'est alors la moisson. C'est le même soleil qui brille aujourd'hui en janvier ou en décembre, baignant la neige et la faisant fondre sur le grain, lui procurant ainsi de l'eau. C'est le même soleil. Mais ce blé ne pourrait pas vivre avec ce même éclairage en juin. Vous voyez, c'est impossible. C'est impossible. La force du soleil augmente chaque jour un peu plus et le grain devrait mûrir un peu plus pour recevoir la lumière du soleil. Ce qui ne va pas aujourd'hui, le grain qui a été semé au temps des pères, au temps de Luther, de Wesley et d'autres, est maintenant arrêté dans sa croissance. Il ne peut pas recevoir le soleil. Le soleil le tue. Il a refusé de pousser. Il s'est séparé de la tige. Il a fait de lui-même une petite chose indépendante, mais ce n'était plus que de la balle, sans vie à l'intérieur. Le grain devrait mûrir et se fortifier chaque jour au fur et à mesure que le soleil devient plus fort. Arrêtons-nous une minute et observons les âges de l'Église. Il y a 7 âges de l'Église. Regardez comment il a parlé à chacun de ces âges, lui indiquant ce qu'il devait faire et comment le grain mûrirait à cette dernière heure dans laquelle nous vivons. Les églises doivent faire de même. Vous voyez, maintenant, Luther a semé un grain et il était lui-même un grain. Il le sema bien. Wesley fut de même ainsi que les pentecôtistes, les baptistes et les nazaréens. Mais voyez-vous, Luther ne serait pas revenu en arrière pour vivre à la lumière de la première dénomination qui est le catholicisme. Oh non, sûrement pas. Il était une autre lumière. C'était Dieu qui faisait mûrir quelque chose. Il en sortit une petite minorité, le réveil luthérien. Puis vint le réveil de Wesley. Eh bien, il ne pouvait pas revenir à Luther. Vous voyez, puis vint la Pentecôte. Puis les pentecôtistes s'organisèrent, faisant comme les autres et prirent la balle du grain. Mais remarquez que le grain poursuit sa voie. Nous vivons maintenant dans un autre âge.
Pourquoi ne l'accepte-t-il pas? Pourquoi ne voit-il pas que le grain est mûr? Il est la parole promise pour ce jour. Pourquoi ne le voit-il pas? Parce qu'ils vivent dans le reflet de Luther, de Wesley, des Baptistes, des Pentecôtistes. Ils vivent dans le reflet d'une autre lumière. C'est pourquoi ils ne peuvent recevoir la lumière de la parole intégrale confirmée comme Dieu l'a promis dans les 7 psaumes dans lesquels fut révélé tout le mystère. Et où Dieu expliqua pourquoi ces mystères furent tels qu'ils le sont. Et maintenant, lorsque cela arrive, ils s'en éloignent plus que jamais. Ils n'ont aucune excuse. Dieu a fait cela par l'Esprit, par des révélations. Il a été réellement prouvé par la science et autres que c'est la vérité. Et pourtant, ils veulent vivre dans un reflet pentecôtiste. Il dit, je suis des églises, je suis de l'unité, je suis de l'église de Dieu, je suis de ceci, de cela. Vous voyez, ils vivent dans un reflet qui date de 40 ou 50 ans en arrière. Un reflet luthérien, wesleyen, baptiste, presbytérien, ou quelques reflets nazériens datant de notre âge de l'église qui est allé de l'avant. Dans notre âge de l'église qui est allé de l'avant, s'est organisé puis a refusé et rejeté la première qui brille actuellement. Et vous vivez ainsi dans un mirage. Je vous le dis avec respect, non pour vous blesser, mais pour vous réveiller. Vous vivez dans un mirage. C'est ce qui a fait dire à Jésus, vous êtes des aveugles et vous conduisez des aveugles. Il tenta de leur dire de se libérer de cela. Laissez-les, si l'aveugle conduit l'aveugle, ils tomberont tous deux dans le fossé. Et c'est l'heure à laquelle je suis arrivé. S'ils chancellent, je n'y puis rien. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai agi selon ton commandement, Seigneur. Tu en es témoin. Je l'ai fait depuis 1933. Lorsque vous avez vu briller cette lumière, elle a brillé dans ce tabernacle même et fut pour vous un témoignage durant toutes ces années. Et tout ce qui a été dit s'accomplira. Mais ils continuent leur chemin. Que l'aveugle conduise l'aveugle. Quant à moi, j'attendrai simplement ce moment-là. Il arrivera un de ces jours. Remarquez là, le fait de vivre dans le reflet de Luther, Wesley et d'autres prophètes d'autrefois est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas voir la vraie lumière. S'ils s'arrêtaient quelques minutes et prenaient simplement leur Bible pour la lire, ils verraient que cela est la lumière promise pour cette heure. Nous allons parler de certaines de ces choses dans une minute. Selon Malachie 4, il a promis que ces choses arriveraient. Il a promis tout au long des églises, des Écritures, que ces choses arriveraient. Vous voyez, regardez aussi Israël, notre modèle. Observez ce qu'ils firent pendant le voyage. Ils se nourrissaient de la manne qui était leur vie. Leur vie, lumière, qui leur donnait la force et vie, n'est-ce pas exact? Israël ne pouvait pas consommer de la manne tombée la veille. Elle était corrompue, elle était pourrie, elle n'était plus bonne pour eux. Ils en seraient morts. La manne qui hier les maintenait en vie les tuerait aujourd'hui. La Bible dit que des vers s'y mettaient et qu'elles étaient alors corrompues. Chaque jour, ils devaient ramasser de la manne fraîche. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Ceux qui vivent de la manne de Luther, de Wesley et de tous les autres du passé consomment une denrée corrompue qui les tue spirituellement. Vous voyez, cela vous tue. Vous êtes mort dans votre tradition. La manne d'hier et la manne d'hier de Luther n'aurait pas convenu à un méthodiste. La manne des méthodistes n'aurait pas convenu à un pentecôtiste. La manne des pentecôtistes ne convient pas pour aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire. Chaque jour, une manne fraîche est venue. Il doit en être ainsi pour les jours de l'Église, pour les âges de l'Église. La manne de Luther était le message de la justification. C'est, celle de Wesley était la manifestation de la sanctification. Les pentecôtistes apportèrent la restauration des sons. Mais ceci introduit maintenant la pierre angulaire. Le message de l'heure introduit la pierre angulaire. Le dernier jour, l'arbre de l'épouse. C'est contraire à tout cela et cependant, c'est la même lumière pour la maturation comme c'est le même soleil d'aujourd'hui qui mûrira le grain pour la moisson en juillet. Vous voyez ce que je veux dire. Mais la lumière d'aujourd'hui ne fera aucun bien en juillet. Elle sera alors plus forte et le blé sera plus avancé. Il sera prêt pour la recevoir. Amen. Oui, maintenant nous vivons dans le temps où la pierre de fête doit être placée et l'arbre de l'épouse dans sa pleine puissance manifestée. La même lumière, le même soleil doit d'une manière nouvelle briller sur nous et la moisson doit être apportée à sa maturité. Mais nous ne pouvons pas maintenant, dans le temps de la moisson, vivre de la lumière et recevoir la lumière du temps de l'ensemencement. C'est pas possible, sinon il n'y aurait pas de croissance et de mûreté et de maturité. C'est pas possible. C'était bon pour l'époque d'autrefois. Vous ne pouvez pas aller contre la nature de Dieu. Il a une loi et si vous contrariez cette loi, vous tuerez votre plante. Vous devez marcher selon les lois établies par Dieu. Et ces lois sont la parole. Sont sa parole. Toute loi est une parole parlée. Et une parole est une pensée manifestée. Vous voyez, nous savons cela. C'est vrai. Qu'est-ce qu'une vision? C'est la parole de Dieu. La prédication ou la prévision d'un événement. Et la vision que les prophètes eurent, que Jésus ou bien Paul et tous eurent au sujet de l'époque actuelle était une prévision de ce qui arriverait. Et nous voyons ici la prévision manifestée, mais les gens ne la reconnaissent même pas. Vous voyez, pas hier, mais aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire. Avez-vous jamais remarqué que le soleil va d'est en ouest, comme il l'a toujours fait? Il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Avez-vous remarqué cela? Remarquez que les âges de l'Église firent la même chose. Le soleil est parti de l'est et la civilisation a progressé avec le soleil. C'était la lumière parlée de Dieu dans laquelle ils devaient vivre. Ils sont venus, ont suivi le soleil et vu où il allait. À votre naissance, votre vie même est comme le soleil. Dès votre naissance, vous allez directement vers le coucher du soleil. L'homme a toujours voyagé en direction de l'ouest. La plus ancienne civilisation que nous connaissons est la Chine, dans les contrées de l'est. Remarquez qu'elle voyage vers l'ouest et de la même manière qu'elle voyage vers l'ouest. L'Église a voyagé en suivant le même parcours, en suivant le Fils de Dieu, le soleil de justice. Regardez, l'Église primitive a débuté à l'est. Elle a traversé la mer jusqu'en Allemagne. Et cela a fait trois phases. Regardez cela. De Jérusalem en Asie, et elle a sauté par-dessus l'océan jusqu'en Allemagne. Ça a commencé à Jérusalem, à l'est, et ensuite c'est allé vers l'ouest. Oui, c'est ainsi que cela a eu lieu avec les âges des églises. Vous voyez Paul, et c'est ainsi que ce fut Luther, d'abord de Jérusalem en Asie jusqu'à sauter par-dessus l'océan jusqu'en Allemagne. Ce fut Luther. Elle a sauté de Luther par-dessus. D'abord Paul, après Luther, ensuite par-dessus la Manche jusqu'en Angleterre avec Wesley. Et de Wesley, elle a sauté de la côte est des États-Unis. Et si vous continuez, elle revient à l'est. C'est le temps maintenant du soir. Vous voyez, regardez comment se présentent les âges de l'Église. D'abord, il y eut Paul dans le premier âge. Puis, on descend la lignée jusqu'à Irénée et ainsi de suite. Puis, nous arrivons en France, de là en Allemagne, en Angleterre, toujours vers l'ouest. Et maintenant, on ne peut plus aller plus loin. Vous voyez, C'est le dernier âge, si ce n'est que ça repart d'où c'est venu. Et que dit la Bible à propos de ce dernier âge? Voyez quelle que soit la manière dont vous le preniez, que ce soit géographiquement, chronologiquement ou de quelque manière que vous le preniez, ce doit être en premier selon l'Écriture. L'Écriture d'abord, bien sûr. L'évidence historique ou de quelque manière que vous le preniez, nous sommes à la fin. C'est le dernier âge de l'Église. Observez, au fur et à mesure que cela avançait, cela devenait de plus en plus fort. La petite minorité de l'Église a grandi de la justification à la sanctification, puis au baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, la pierre du fait prépare activement sa venue. Puis, plus d'organisation après cela. Il n'y aura plus rien. Cela n'est pas possible. Voyez, nous sommes à l'ouest. Je dis cela simplement pour vous montrer ce que représente la chose à travers tous ces types et autres. Regardez ces trois sauts. Ces trois phases, donc. Nous entrerons dans ces choses ce soir. Nous sommes au temps de la fin. Le soleil a voyagé comme le fils, comme le soleil. L'Église a fait la même chose tout au long de cet âge de l'Église. Les civilisations ont progressé vers l'ouest et l'Église a progressé vers l'ouest. Et si nous allions plus loin que là, nous sommes maintenant. Et si nous allions plus loin que cela, où nous sommes maintenant, nous nous retrouverions à l'est et quittant la côte ouest pour arriver en Chine, au Japon, 11 500 kilomètres plus loin que vous retrouviez à l'est. C'est ainsi que se rencontrent l'Est et l'Ouest. C'est comme cela. Nous sommes à la fin. Il ne reste plus rien. Et aujourd'hui, il est arrivé la même chose qu'autrefois. La même chose s'est retrouvée à l'Ouest qu'à l'Est. Les gens vivent dans le reflet d'une autre lumière qui s'était efforcée de proclamer que la lumière allait venir, mais ils l'ont rejetée parce qu'ils prenaient le reflet pour la lumière. Oh, et il y avait une grande lumière dans le pays des gentils, Zabulon, Naphtali et la Galilée. Nous sommes au septième âge de l'Église. Souvenez-vous, le soleil qui commence à briller à l'est est le même soleil qui brille à l'ouest. Et le même esprit qui a parcouru les âges est le même soleil aujourd'hui. Mais qu'y a-t-il? C'est tout comme la maturité qui varie selon la saison. Le soleil qui brille maintenant est le même que celui qui fera mûrir le grain cet automne. Vous voyez? Mais qu'y a-t-il? C'est le soleil de maintenant dont la puissance sera augmentée. Et aujourd'hui, dans ce dernier âge, les croyants sont ce qu'ils étaient avec quelque chose en plus. Et cependant, ils voudraient vivre là en arrière comme des nains. Ils voudraient descendre dans la vieille cave moisie des dénominations et des credos. Ils voudraient baisser leur store et dire « Je refuse de le voir. Cela n'a pas de sens. » Et tout cela alors que la Bible même qu'ils prétendent croire est identifié par le même Saint-Esprit qui apporte la lumière en ces derniers jours. Aviez-vous remarqué cela? Faites bien attention à ce que dit Malachi. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est le même Esprit qui agissait autrefois et qui agit ici de nouveau. C'est la même chose. Vous voyez, c'est réellement ici, vice versa, nous plaçant de nouveau au commencement. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que l'Est et l'Ouest se sont rencontrés. Vous voyez, cela se passe juste sous nos yeux et cependant, ils ne le voient pas. Pourquoi? Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit, laissez-les, ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles, ils tomberont tous dans le fossé. La lumière des autres âges ne faisait que refléter la vraie lumière. Vous voyez, le soleil d'aujourd'hui est l'image du soleil qui brillera en juillet ou en août pour la moisson. Et le soleil de Martin Luther, de Wesley, de Sankey, de Finney, de Knox, de Calvin, de Calvin, de Modi et de tous les autres, tous ces grands hommes d'aujourd'hui qui avaient ces lumières, et celui de John Smith et de l'église baptiste et d'Alexandre Campbell de l'église Campbelliste et de ceux qu'on a appelés disciples de Christ de l'église chrétienne et de tous ces hommes de ces églises passées, nous verrons que ce soleil ne faisait que réfléchir ce que nous aurions au temps de la fin. Puis, que firent les enfants des fondateurs de cette église immédiatement après eux? Ils ne restèrent pas sur la tige. Ils s'en séparèrent et firent d'eux-mêmes une balle sans vie, puisque séparés de la source de vie. Vous n'avez pas la vie. Jésus a une table dressée où les saints de Dieu sont nourris de la nourriture de ce jour, mûris par la lumière de l'évangile qui authentifie qu'il est là aujourd'hui présent parmi son peuple. Les saints mangent le pain donné aujourd'hui. Pensez simplement à ceci. La vieille balle d'hier, ne la replantez pas, s'il vous plaît. Elle est pourrie. La vie ne reste pas en elle. Non, certainement pas. Cela ne servira à rien. Elle ne poussera pas. Elle est coupée de la vie. Et la parole est la vie, c'est vrai. La balle tombe. Sa vieille petite barbe disparaît. Elle prend simplement une dénomination et tombe. Elle refuse de continuer avec la vie. Bien que la lumière authentifie la vie, combien devrions-nous nous rendre compte de cela et ne pas manger aujourd'hui la nourriture pourrie d'hier? Vous voyez, les vers s'y sont mis, vous savez, ces petits asticots, comme je les appelle. Je ne connais pas grande chose à la vie des germes, mais nous les avons toujours appelés des asticots. Ils s'introduisent dans tout ce qui commence à pourrir. Alors, je n'en veux plus. Si cela vous convient, allez-y, mais pas moi. Mais souvenez-vous, vous dites alors, pourquoi était-ce bon hier? Si seulement vous saviez que cette minuscule enveloppe qui entourait le grain au début est cela même qui fait grandir le blé. Ce qui était hier est la chose même qui fait fleurir le blé. Mais si cette petite enveloppe se sépare du grain et ne mûrit pas, elle tombe, vous voyez? Mais si elle passe au travers du processus qui donne la vie, elle se fond en quelque chose d'autre et forme le grain. Si ce n'est pas le cas, d'où vient-elle? Amen. Vous avez compris. C'est comme la reine d'Angleterre. Elle alla pour une fois visiter une grande fabrique de papier. Elle dit qu'elle aimerait voir une fabrique de papier. Ils la lui montrèrent donc. C'était il y a des années avant qu'il n'emploie la pâte à papier. Elle arriva donc dans une grande pièce où il n'y avait rien d'autre qu'un monceau de chiffon sale. « Oh, dit-elle, d'où cela vient-il? Qu'est-ce donc ?» Le directeur technique lui dit, « C'est avec ces vieux chiffons que l'on fait le papier. » Elle dit, « C'est cela qui fait le papier ?» Oui, elle avait de la peine à le croire. Aussi, après son départ, l'homme prit-il ce même tas de chiffons sales, le fit passer par divers processus et il en sortit du beau papier pur. C'était du papier de première qualité et il y grava le profil de la reine puis le lui envoya. Elle se reflétait dans ce qu'elle appelait des chiffons sales. C'est ainsi. Les choses mortes d'hier, le message de Luther, celui de Wesley, de la Pentecôte, produiront la manifestation de Jésus-Christ, le roi, pourvu qu'ils puissent passer par le processus du Saint-Esprit de Dieu, de la parole confirmée pour cette heure. Mais si vous laissez ces choses traîner là, cela restera des chiffons sales. Vous voyez, cela doit être fondu en quelque chose d'autre. Luther doit se fondre en Wesley et Wesley dans la Pentecôte. La Pentecôte doit se fondre en Christ. Cela suit tout un processus. L'évangile a suivi un processus. Il est en marche. L'âge de Luther est celui de la justification. Nous croyons cela. L'âge de Wesley est celui de la sanctification. Nous le croyons. L'âge de la Pentecôte est celui de la restauration des dons du Saint-Esprit. Nous croyons cela, certainement. Mais fondez-les tous ensemble et qu'en sortira-t-il? Jésus, mais oui, le même hier, aujourd'hui, lui-même et éternellement, c'est Jésus qui sortira de tout cela. Dans une fonderie, quand un homme fabrique une cloche, il doit lui faire rendre un certain son. Quand il prépare son moule et il verse le métal, il y met tant d'airain, tant d'acier, tant de cuivre. Pourquoi cela? Il connaît exactement les proportions qui vont lui donner la sonnerie voulue. Et c'est ce que Jésus a fait pour son épouse. Il a dû mettre tant de luthéranisme, tant de méthodisme, tant de pentecôtisme. Et qu'en résulte-t-il? Sa propre image. Comment cela? C'est comme le message de la pyramide. Vous voyez? Tout cela s'amoncelle jusqu'à en arriver à la minorité qui constitue la pierre du fait. L'actuel ministère de Jésus sur la terre doit être le même. L'actuel ministère de Jésus sur la terre doit être le même que celui qu'il avait, sans quoi il ne peut y arriver. Sans quoi il ne peut y arriver. C'est exactement comme la tête et les pieds. Les pieds ne sont pas la tête, mais la tête s'accorde avec les pieds, leur dit où ils doivent aller. Vous comprenez? C'est la lumière pour cette heure. Wesley fut une grande lumière, tout comme Dieu dit à Jean-Baptiste qu'il était une grande lumière pour son heure. Et il l'était certainement. Il est certain que si vous laissez les chiffons sales d'hier tels qu'ils sont, ils resteront tout simplement des chiffons sales. Ils sont remplis, ils ont rempli leur rôle de vêtements, mais maintenant ils sont devenus du papier. La justification a accompli sa tâche sous Luther, puis cela dut devenir sanctification par l'intermédiaire de Wesley. Et la sanctification a accompli sa tâche jusqu'à la venue du baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit a accompli sa tâche jusqu'au moment où le Saint-Esprit se fond dans l'Église, car il n'y a qu'un Dieu et que l'Église se fond en Christ. Cela reflète Jésus sur la terre, comme il l'a promis ici dans la Bible. Vous êtes libre de ne pas le croire. Je ne peux pas vous y obliger. Je ne suis responsable que de la parole. Vous voyez, c'est juste. Comprenez-vous? Voyez-vous cela? Vous serez alors comme l'homme qui est allé au pays de Galles au moment du réveil. Un groupe d'hommes vint des États-Unis. Ils parcouraient les rues afin de trouver le bâtiment où se tenait ce réveil du pays de Galles. Beaucoup parmi vous se souviennent de ce grand réveil qui éclata parmi les habitants du pays de Galles. Cet homme qui venait des États-Unis était des grands pasteurs. Et ainsi de suite, c'était des docteurs en théologie. Ils avaient voulu traverser l'Atlantique pour voir ce grand événement. Vous savez, ils marchaient donc dans la rue et au coin de la rue. Ils rencontrèrent un vieil agent de police qui faisait tournoyer son bâton en sifflant un cantique. Ils dirent: oh, il sifflote justement un cantique. Nous devrions nous approcher pour lui poser une question. Ils vinrent donc vers lui et dirent: monsieur, où se trouve le réveil du pays de Galles? Il ôta son chapeau et dit: monsieur, le réveil du pays de Galles se trouve ici. Et il montra son cœur. Voilà, il était lui-même le réveil du pays de Galles. Oh Dieu, si seulement nous pouvions comprendre que nous sommes l'image, la réflexion de Jésus-Christ, sa parole manifestée. Vous êtes la réflexion de sa parole. Vous voyez, où se tient le réveil du pays de Galles?
dans quel bâtiment? Il répondit, monsieur, il est dans mon cœur. Il était le rebelle du pays de Galle, c'est vrai. Et l'église aujourd'hui devrait être Jésus-Christ à l'œuvre sur cette terre. Parce que je vis, vous vivrez aussi et ma vie sera en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous voyez, l'église doit prendre cette position. Il a promis qu'il le fera. Et il le fera. Cela doit arriver de cette manière. Et vous voyez, c'est ce qui arrive. C'est ainsi que nous devons être. Il est la lumière comme Noé était la lumière en son jour. Il était la lumière, Noé était cette lumière. De quoi était-il la lumière? De la parole de Dieu qui devait s'accomplir. Je détruirai l'homme sur la surface de la terre que j'ai créée. Construis une arche afin que tous ceux qui désireront y entrer soient sauvés. Noé sortit de l'arche et dit, il n'y a qu'un moyen de salut, c'est l'arche. Ils le traitèrent de vieux, fou et de fanatique. Il était la manifestation de la parole. Noé était la lumière de l'heure, certainement. En son jour, en son âge, il fit jaillir la lumière. Moïse était certainement la lumière de son heure. Je vous visiterai, certainement, avait dit Dieu à Abraham. Je descendrai et je ferai sortir le peuple à main forte. Et je montrerai ma puissance en Égypte. Et lorsque Moïse alla à la rencontre du buisson ardent et découvrit que le je suis s'y trouvait, il revint de là et fut la lumière. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu prendre de la poussière, le jeter en l'air et dire que les mouches viennent sur la terre. Il avait la parole de Dieu juste. Donc qu'arriva-t-il? La poussière se mit à voler et des mouches commencèrent d'apparaître. Alléluia. Pourquoi? Il était une manifestation de la lumière de la parole de Dieu. Je frapperai l'Égypte de plaie. Il était un prophète. Ce qu'il disait se réalisait. Il était la lumière de ce jour. Il était la lumière de Dieu. Pharaon pouvait avoir tout ce qu'il voulait. De même que les prêtres et tous les autres. Mais Moïse était la lumière. Pourquoi? Il démontrait que la parole de Dieu était manifestée. Dieu avait promis, je les délivrerai par une main puissante et je me glorifierai. C'est ce qu'il était en train de faire. C'est la raison pour laquelle Moïse prouva qu'il était capable de crier. Non parce qu'il le désirait, mais parce que Dieu lui avait dit de le faire. Il lui avait dit d'aller devant l'assemblée et de dire, Dieu m'a parlé et m'a dit, prends une poignée de poussière, lance-la vers le ciel et parle. Il n'y a rien là, mais cela va se produire. Amen. Oh, j'espère que vous ne dormez pas. Oh, quelle manifestation. Il dit, je suis envoyé. Dieu a dit à nos pères qu'il nous visiterait, certainement, et nous ferait sortir. Je suis venu pour vous prouver que l'heure est proche. Débarrassez-vous de tout ce que vous avez et partons. Quelques-uns diraient, bien je crois, d'attendre, je ne pense pas que ce soit urgent. Ne nous emballons pas, je crois que cela a déjà raté 4 ou 5 fois. Mais malgré cela, tout se mit en mouvement. Ils pensèrent, ils sortirent et dirent, lapidons ce Moïse et débarrassons-nous de lui. Nous n'en voulons pas dans notre groupe. Mais Moïse allait malgré tout de l'avant parce qu'il était la lumière. Il était la lumière de cette heure. Qu'avait-il? Qu'était-il? Dieu manifestait sa parole promise à travers lui. Moïse était donc la lumière. Élie était la lumière. Dans son temps, va sur cette colline. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Certainement, il descendit là avec le ainsi dit le Seigneur. Même la rosée ne tombera pas du ciel qu'à mon appel, qu'à ma parole. Le soleil peut briller, vous pouvez prier pour que les nuages viennent, mais quoi que vous fassiez, même la rosée ne tombera qu'à ma parole. Qu'était-il? La lumière. Alléluia. Il était la lumière, la lumière. Il était la parole de Dieu manifestée. Ils pensèrent qu'il était fou de s'être installé là-haut. On lui apportait de la nourriture alors qu'eux-mêmes mouraient de faim. Ils voulaient continuer de vivre dans les traditions. Mais Moïse et Élie vivent en plein dans la lumière. Élie était installé là près du torrent de Kérit et prenait simplement du bon temps. Il avait des repas assurés et quelqu'un s'occupait de lui. Il avait tout ce
qu'il lui fallait. Il pensait qu'il était devenu fou, mais il était la lumière. Il disait, eh bien, que devient notre vieux fanatique qui rôdait par là? Savez-vous quoi? Quelqu'un était à la chasse l'autre jour et dit l'avoir vu tout là-haut sur la montagne. Je parie que ce vieux bonhomme est tout desséché à l'heure qu'il est. Oh non, il était la lumière, il était la lumière. Il était la lumière de Dieu dans son jour. Lorsque Jean vint sur la terre, il alla dans le désert et non pas au séminaire pour y être instruit par Dieu, mais il devait introduire le Messie. Alors aussi, lorsque Jésus vint, il dit que Jean était une brillante lumière. Alléluia. Pourquoi? Il était la parole manifestée. C'est ce qu'Ésaïe a dit. C'est vrai. Il enverra une voix dans le désert, criant et disant, prépare le chemin pour le Seigneur. Redressez le chemin. C'était la voix de quelqu'un criant dans le désert. Voici, il vient. Qu'était Jean? La voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Qu'était-il? La manifestation de la parole, la lumière. C'est le même Dieu qui avait parlé dans la Genèse, qui disait une chose et la vie se manifestait. De même qu'il dit que la lumière soit pour que le soleil apparaisse, il dit aussi qu'il y aurait une voix criant dans le désert et Jean vint. Il fut la lumière de l'heure. Il a aussi dit dans les derniers jours que la lumière de l'heure crierait dans le désert de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés. Ne touchez pas à ces choses impures et donnez-vous et fuyez la colère à venir. Jean dit la même chose. La hache est mise à la racine de l'arche, de l'arbre. Il n'était même pas venu d'instruction. Il n'avait même pas reçu d'instruction. Il ne parlait pas comme un prédicateur. Il parlait de serpents, de bâtons, d'arbres, de haches, de choses auxquelles il était habitué au désert. Il n'avait pas été élevé dans tous ces raffinements qu'il pouvait connaître de cette époque. Il employait son propre langage. Il ne se tenait pas ainsi en disant Amen. En faisant toutes ces courbettes fantaisistes, il venait directement du désert. Il disait, ne commencez pas à penser que j'appartiens à ceci ou à cela, ou que je suis ceci ou que je suis cela. Dieu peut susciter de ces pierres des enfants à Abraham. Ne pensez pas que parce que vous êtes des méthodistes, des baptistes ou des presbytériens, vous ayez la moindre emprise sur Dieu. Dieu est capable de prendre des trafiquants ou des prostituées dans la rue pour en faire des saints. Certains entendront cela et quelques-uns le croiront. Il dit aussi, la cognée est mise à la racine de l'arbre et tout arbre qui ne croira pas sera abattu et jeté au feu. Tel était son message. Il était la lumière de ce jour. Jésus dit, Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Et qu'a dit Jean, le prophète? Il se tient parmi vous juste maintenant. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et dès qu'il viendra, je m'en irai. Oh mes frères, il était la lumière. Il n'y a pas deux ou trois lumières, ni quatre ou cinq différentes organisations. Il y a une seule lumière. Et il n'y a pas des méthodistes, des baptistes, des luthériens, des presbytériens. Christ est la lumière. Et la lumière est la parole. Et la parole manifestée est la lumière de Dieu. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais oui, qu'il y ait de la lumière et voici la lumière. Il dit qu'il y aurait de la lumière en ce jour. Et voici la lumière. Il vient. Je le crois. Observez les promesses de cet âge. Oh, mes frères, toute lumière qui brille comme a brillé. Il est attristant de voir l'Église la rejeter dans tous les âges. J'ai noté Apocalypse 3 et je sais à quoi je m'en suis référé. Regardez la promesse de cette heure dans laquelle nous vivons. C'est une lumière rejetée. Que firent-ils? Ils la rejetèrent, la lumière. Pourquoi? Ils vivaient dans un reflet. Que font-ils aujourd'hui? La même chose. Eh bien, êtes-vous chrétien? Je suis luthérien, dit-il. Je suis baptiste, dit-il. Je suis presbytérien, dit-il. Vous pourriez aussi bien dire que vous êtes un sanglier ou vous faire appeler de n'importe quel autre nom. Cela ne signifie pas grand-chose.
Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous mépriser, mais si pour vous c'est fondamental, très bien. Mais je vous pose la question, qu'est-ce qu'un chrétien en fait? Un chrétien, c'est Christ en vous. Si Christ est en vous, quand la lumière brille, comment pourriez-vous l'abandonner? Vous voyez, c'est là la question. C'est là la question maintenant. C'est ça qu'il s'agit maintenant. La lumière du soir brille. L'arbre de l'épouse est en fleur. Oh, souvenez-vous, ils ont élagué ce vieil arbre. Et ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce que les méthodistes ont laissé, les baptistes l'ont dévoré. Et ce que les baptistes ont laissé, les pentecôtistes l'ont dévoré. Joël a dit que cet arbre a été coupé jusqu'à la souche. Mais il voulait savoir s'il revivrait. Oh oui, Dieu s'est réservé cet arbre. Il se l'est réservé parce que c'était son épouse. Et le Seigneur a dit, je restaurerai. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ramènerai tout ce que les luthériens ont dévoré, les wesleyens et tous les autres ont dévoré. Je le ramènerai, je le restituerai et je le restaurerai. Car tout est encore dans la racine de l'arbre. Vous voyez? Tout cela repose sur le sol. Telle la sève qui est descendue, comme je l'ai dit au sujet de notre sœur. Tout repose là. Et un jour, la trompette de Dieu sonnera, résonnera, et les élus du temps des luthériens, des baptistes, des méthodistes, qui n'ont rien à faire avec une organisation, apparaîtront. Luther n'a jamais rien organisé. Maudit n'a jamais rien organisé. C'est ce groupe de Ricky qui s'est organisé après lui. Ils ont pris la balle du grain. John Smith n'a rien organisé. Aucun d'eux ne s'est organisé. C'était la lumière du jour autrefois. Ce n'est ni Luther, ni Wesley, ni aucun d'eux. C'est le groupe qui leur succéda qui fit l'organisation. Le Saint-Esprit n'a jamais rien organisé avec la Pentecôte. La Pentecôte est une expérience et non une organisation et non une religion, une dénomination. Il n'a jamais rien organisé. Oh non! Mais l'homme qui se dit pentecôtiste, c'est lui qui s'est organisé. C'est l'enveloppe qui est en train de mourir là-bas. Au lieu de presser cela dans le papier pour en faire ressortir l'image de Jésus-Christ et passer par ce processus, fondre, ils s'en sont exclus. C'est pourquoi il n'y a rien à faire. Simplement laissez-les tranquilles. Mais nous découvrons cette lumière, cet arbre, Christ rejeté de nouveau par l'Église. Pourquoi? Pour la même raison qu'au début, à cause de ses faux reflets d'un autre jour. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8, dit qu'il est. Il est le même aujourd'hui qu'il était alors. Parce qu'il fait la même chose qu'auparavant. C'est la même parole que Christ. Écoutez, j'aimerais simplement vous dire quelque chose de personnel. J'hésite à interrompre l'enregistrement. Mais je crois que je vais le laisser continuer. Je veux vous demander quelque chose. Observez ceci. Est-il le même hier, aujourd'hui et éternellement? Observez les œuvres qu'il a accomplies. Le manifeste lui-même. Les œuvres, le manifeste lui-même. Maintenant, écoutez bien. Quand il se tenait là, dans Jean 14, verset 12, et dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et même de plus grande, car je m'en vais au Père. C'est ce qu'il a dit. Le ciel et la terre passeront. Mais cette parole-là ne faillira jamais. Et si nous sommes à l'extrême fin de l'âge, quelles sont ces œuvres plus grandes à venir? Quelles sont ces œuvres dont il a parlé? Vous voyez, c'est là que nous en sommes maintenant. Écoutez, sur le calendrier romain est juste. Il nous reste 36 ans
jusqu'à atteindre 2000 ans. Tous les 2000 ans, le monde va à sa fin. Au bout, pour atteindre donc l'an 2000, au bout des deux premières 1000 ans, il fut détruit par l'eau. 2000 ans plus tard, Christ est venu. Tous les 2000 ans, quelque chose se passe. Nous arrivons maintenant en 1964. Il reste donc 36 ans pour arriver à l'an 2000. Or, d'après le calendrier égyptien, il y a un écart de 17 ans. Nous sommes donc 17 ans plus tard que 1964, d'après le calendrier égyptien. Ainsi, cela nous laisserait 19 ans d'après le calendrier égyptien. Jésus dit que l'œuvre sera abrégée pour le bien de ses élus, sans quoi nulle chair ne serait sauvée. Où en sommes-nous alors? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous ferez le même genre d'œuvre, mais plus grande. Maintenant, observez. Écoutez attentivement. Je prie pour que Dieu ouvre votre cœur et votre esprit à la compréhension afin que vous compreniez sans dire que la fin, sans dire que là, c'en est trop. Remarquez ce qu'il dit un jour.
Voyons une des choses, des grandes œuvres qu'il a faites. Arrêtons-nous-y un moment. Réfléchissons. Un jour, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils dirent, nous n'avons rien. Jésus dit, qu'avez-vous trouvé? Apportez-moi ce que vous avez. Et ils dirent, nous avons 5 pains d'orge et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi. Et il prit les 5 miches originelles et commença à les rompre. Et de ces miches originales, il fit du pain et en nourrit 5000 personnes. N'est-ce pas vrai? Puis il dit, avez-vous un poisson? Donnez-moi ce poisson. C'était un poisson dès le commencement. Et de ce poisson, il suscita un autre poisson, puis encore un autre, et il en nourrit 5000 personnes. N'est-ce pas exact? Mais au dernier jour, il n'avait rien. Il a simplement dit, dis ceci et cela arrivera. Et la chose fut présente sans qu'il y ait rien du tout au départ. Il n'y avait aucun écureuil. Il n'y en avait pas là. Il a simplement dit qu'il y en ait un. Et il était là. Oh, sa parole est infaillible. Elle s'est accomplie. Je pourrais vous dire des choses qui vous secoueraient. C'est ici quand il dit que c'est ici. Laissez-le le dire. Vous voyez, c'est exact. Vous voyez, ici, l'ouest est revenu en arrière et a rejoint l'est. C'est Moïse qui ramassa du sable et dit qu'il y ait des mouches sur la terre. Et ainsi de suite. Mais en ces derniers jours, il ne prend rien. Excepté la parole, que cela soit et cela est. La chose est telle que la parole l'a dite. Je veux témoigner de quelques-unes de ces choses ce soir, de ce qui s'est passé, afin que vous voyez qu'il est toujours Dieu. Sa parole ne peut manquer. Ses œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, et même de plus grandes que celles-ci. J'ai pris un poisson pour faire un poisson. Vous n'aurez même pas besoin d'un poisson. Il est toujours Dieu. C'est le même Fils de Dieu aujourd'hui. Ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et même de plus grandes que celles-ci. Ce sera amplifié. Vous en ferez de plus grandes que celles-ci. Et les gens refusent de le voir. De plus grandes œuvres. Une fausse lumière. Vous savez, je pensais justement à quelque chose. Je me suis beaucoup référé à l'Angleterre, mais je pensais à une fausse lumière. Vous vous souvenez tous du vol le plus important dont l'Angleterre ait jamais été victime. C'était il n'y a pas longtemps. Ce fut un hold-up de 7 millions de dollars. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu dans le monde entier quelque chose de comparable à cela. C'est récemment qu'eut lieu ce grand hold-up de 7 millions de dollars. Même Scotland Yard ne peut l'évaluer. Savez-vous comment ils ont fait? Ils se sont servis d'une fausse lumière. Ils ont placé une fausse lumière rouge sur la voie de chemin de fer. Le train s'est arrêté Et cela a ainsi permis que le vol ait lieu au bon endroit. Une fausse lumière a permis le plus grand hold-up que le monde ait jamais connu. Cela a été causé par une fausse lumière. Et le plus grand vol que l'Église de Dieu ait jamais subi est dû à une fausse lumière, au reflet d'une dénomination. On les a dépouillés de la puissance du Saint-Esprit. Cela a ôté à l'Église sa sauvegarde même. Ils ont été dépouillés de la parole lorsqu'ils ont accepté un credo à sa place. La parole leur a été volée. Oh, ils prétendent avoir la parole. Mais la parole vient par elle-même en dehors de cet âge. La parole vient par elle-même en dehors de cet âge. Elle s'est fait connaître du temps de Jésus. Ils prétendaient aussi avoir la parole. Mais il est dit qu'ils virent une grande lumière et la rejetèrent. Ils la virent, mais la rejetèrent. Oh, une fausse lumière. Oui, elle occasionna à l'Église le plus grand vol qu'elle ait jamais subi. Frères, les froids credos, les froides doctrines et opinions des dénominations ne feront pas mûrir la parole authentifiée. Non, même pas un grain. Jésus dit que la parole de Dieu est une semence qu'un semeur a semée. Vous voyez, et de froids credos, de froides doctrines et interprétations ne feront pas mûrir cette parole. Non, non, et encore une fois, non. De froids jours de bise ne feront pas mûrir le blé. Non, vraiment pas. Cela nécessite la chaleur du soleil, parce que c'est à la parole parlée de Dieu. C'est par la parole que Dieu prononce que cette chose se passe. Oui, elle a besoin de la chaleur du soleil, parce que c'est à la parole parlée de Dieu. C'est à la parole parlée de Dieu de faire cette chose. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est à la parole que Dieu prononce. C'est elle, c'est la parole. C'est à la parole parlée de Dieu qu'il appartient de montrer au sein de Dieu que Jésus-Christ vit aujourd'hui exactement de la même manière qu'il le faisait hier. Les credos et les dénominations ne feront jamais cela. Ils ne sont que froideur et indifférence et feront pourrir le grain directement dans le sol. Il lui est impossible de sortir dans ces conditions, jamais, et de se manifester à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons toutes ces choses. C'est comme notre précieux frère Billy Graham, le grand revivaliste. Je crois que Dieu utilise cet homme. Mais regardez ce qu'il fait. Il va parmi les baptistes et les presbytériens. Que fait-il? Il rassemble simplement des membres d'église. Vous voyez pourquoi les baptistes du sud se glorifiaient. C'était eux qui avaient le plus d'assemblées. Leur dénomination s'est développée plus que celle des autres protestants. Les catholiques les ont presque tous englobés l'année dernière. L'avez-vous lu dans les journaux? C'est une chose certaine. Ne vous en faites pas. Ils vont tous les prendre. Ils prennent les baptistes et tous les autres assemblées. Ils sont tous un et ne le savent pas. Le conseil des églises les met tous dans le même sac. Pourquoi resteriez-vous à l'écart tant que vous rejetez la parole de l'heure? Quelle différence cela fait-il? N'utilisez-vous pas la même étiquette dénominationnelle simplement parce que vous êtes au moins. Simplement parce que vous êtes au même point. L'un est à la bête. L'un est la bête et l'autre la marque. Voilà donc où vous en êtes. Ainsi, cela ne fait aucune différence. Voici où nous en sommes. Il a apposé son sceau d'approbation et vous le prenez. Vous l'acceptez. Et cela vous mène tout droit à la Maison Blanche à Washington DC et au Conseil des Églises. C'est là que vous allez. Et les hommes d'Église les ramènent en arrière. C'est exactement ce que la Bible a dit qu'ils feraient. Oh mon Dieu, Combien je souhaiterais que cette horloge n'aille pas si vite. Maintenant, songez au point où nous sommes arrivés. Considérez les promesses pour ce jour. Elles sont de nouveau rejetées. Voyez comment en ce dernier jour, les églises ont établi des dénominations. Un reflet. Ils vivent dans un reflet. Voilà pourquoi cela ne peut pas mûrir. Voilà pourquoi vous ne voyez pas les miracles qui devraient accompagner cette parole. Récemment, un prêtre m'a interviewé, me disant, Monsieur Branham, a-t-il dit, comment avez-vous baptisé cette fille? Elle avait quitté cette église, était devenue rétrograde et avait épousé un catholique. Elle s'était jointe à l'église catholique et il devait la recevoir dans l'église. Je dis, je l'ai baptisé du baptême chrétien. Il dit, c'est l'évêque qui désire savoir. Je dis, bien, voilà donc. Il dit, le jurez-vous? Je dis, je ne jure jamais. Si vous n'acceptez pas ma parole, tant pis si je ne jure pas. C'est parce que la Bible a dit, ne jurez pas par le ciel, c'est le trône de Dieu, n'est pas la terre, c'est son marchepied. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Vous devez prendre ma parole telle qu'elle est. Il dit, eh bien, vous avez parlé du baptême chrétien. Que voulez-vous dire? S'agit-il du baptême par immersion? Je dis, c'est la seule manière du baptême, de baptiser un chrétien. Je l'ai baptisé dans l'eau, en la plongeant dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis je l'ai ressorti. Je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le seul baptême chrétien qui existe. Exactement. Il inscrivit cela et dit, comme c'est étrange. Savez-vous que l'Église catholique avait l'habitude de baptiser de cette manière? Je dis, à quelle époque? La discussion se poursuivit un moment et il dit, nous sommes les catholiques primitifs. Comme je connaissais l'histoire par les livres, je dis, c'est vrai. Mais pourquoi ne faites-vous plus ainsi aujourd'hui? Il dit, nous avons le pouvoir de remettre les péchés. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils seront pardonnés et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Je dis, certainement, c'est ce qu'il a dit. Il dit, cela ne donne-t-il pas l'autorité à l'Église? Pierre était la tête de l'Église. J'ai répondu, oui, c'est l'Église. Si l'Église remet les péchés et les péchés de la même manière que le fit Pierre, quand ils demandèrent ce qu'ils devaient faire pour être sauvés, Pierre leur dit que chacun de vous se répande et soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Si vous faites cela, je me joins à vous. Oh, dit-il, vous essayez de plaider en faveur de la Bible. Je dis, c'est la parole de Dieu. Il dit, Dieu est dans son église. Je dis, Dieu est dans sa parole. Toute autre parole d'un homme n'est que mensonge. Il est la vérité seule. Vous voyez, il n'y a pas d'autre chemin que cela. Vous tous, droit dans les ténèbres et les protestants, ils tombent par milliers. Eux vont tous droit dans les ténèbres et les protestants y tombent par milliers. Ils sont sur le point d'adopter leur credo et leur doctrine et leur dogme et toutes ces choses, allant tout droit avec eux dans le communisme. Bien que la parole le proclame et prouve que Jésus se manifeste comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, ils se meuvent dans les ténèbres à travers ces reflets de credo. Ils se meuvent dans les ténèbres comme ils le firent au temps de Noé. Ils feront aujourd'hui ce qu'ils ont toujours fait. Ils vont tout droit dans les ténèbres. Pourquoi? Ils rejettent la lumière parce que les doctrines les ont aveuglés. Oh, dans quelle heure sombre nous nous trouvons aujourd'hui. Oui, ils ont rejeté la vraie lumière éternelle du Christ. Et c'est pourquoi il en est ainsi aujourd'hui. De foi, dénomination ne pourront jamais manifester la vie de la parole de Dieu. Car c'est la dénomination qui rejette la vie. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes professent être chrétiennes. J'ai dit à ce prêtre, je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que l'église catholique était la véritable église à Pentecôte, mais non au concile de Nicée à Rome. L'église n'est pas née à Nicée à Rome, elle est née à Pentecôte. Vous voyez, c'est à Jérusalem que l'église a commencé. Des esclaves ont reçu le Saint-Esprit et leurs maîtres ont pu voir quelle était leur puissance et tout ce qu'ils faisaient. Ressuscitant les morts, parlant en langue, chassant des démons et prédisant certaines choses. Il y avait des prophètes parmi eux. Ils étaient vêtus de peau de mouton et se nourrissaient d'herbes. Lorsqu'ils vinrent à Nicée, quels grands hommes c'étaient. Ils s'en tenaient à la parole lorsqu'ils sortirent de là pour aller au concile de Nicée. Mais ces 15 jours funestes leur suffirent pour accepter la doctrine de la Trinité à la place de la doctrine biblique au nom de Jésus-Christ. De là viennent toutes les églises protestantes. C'est de là que viennent toutes les églises protestantes qui sont nées là-dedans et qui font la même chose. La fausse conception du Saint-Esprit et toutes ces autres choses. Ils prennent la communion, boivent le vin et c'est ce qu'ils appellent la Sainte Eucharistie, qui signifie le Saint-Esprit. C'est cela que vous donne le prêtre. Oui, la Bible ne dit pas, lorsqu'arriva le jour de Pentecôte, un prêtre, le col à l'envers, vint disant, tirez la langue et prenez la Sainte Eucharistie. Non, elle n'a pas non plus dit, venez tous et donnons-nous la main d'association. Vous baptistes, méthodistes, inscrivez vos noms, apportez une lettre de recommandation. Non, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble d'un même accord, dans le même lieu, quand tout à coup un bruit descendit du ciel comme un vent impétueux. Il remplit toute la pièce où ils étaient assis. Ils furent tous remplis de l'esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Ils sortirent dans la rue, titubant comme des hommes ivres. Il y avait Marie et tous les autres et ils étaient sous l'impact du Saint-Esprit. Les gens se moquaient d'eux et disaient, ils sont pleins de vin doux. Qui avait-il avec ces gens? Qui avait-il? Qui avait-il avec ces gens? Ils étaient aveuglés par un credo, par une doctrine, ils étaient aveuglés, ils ne pouvaient pas voir ce qui s'était passé. Cette demi-portion de prédicateurs nommée Pierre, se tenait là et dit, « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem et en Judée, sachez ceci et vous, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, mais laissez-moi vous annoncer ce que dit l'Écriture à ce sujet. C'est la lumière, c'est la manifestation de la parole. Amen. Aujourd'hui, ils font de nouveau la même chose. Ils hochent la tête et s'en vont. Jésus avait dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils tomberont dans le fossé. Ils ne reconnaissent pas quand la parole des prophètes s'accomplisse, quand la lumière est manifestée. Ils ne la reconnaissent pas. Oh, c'est à la vie éternelle de Christ d'amener la parole de vie à être authentifiée, faite chair, oh mon Dieu. Il faut le Saint-Esprit pour faire agir la parole de Dieu. Jésus dit, allez dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à chaque créature. Maintenant, regardez Marc 16. C'est la dernière commission. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils serreront les mains de... Non. Ils seront de bons membres de l'Église? Non. Oh, en mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Oh, mes frères. Jusqu'où? À chaque créature. Combien? Au monde entier, jusqu'à ce qu'ils reviennent, ces signes seront manifestés. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Il en fera même de plus grandes, car je m'en vais au Père. Oh, le fait que nous puissions marcher loin de là, mais incompréhensible. Nous sommes davantage dans les ténèbres aujourd'hui qu'il ne l'était alors. Il me reste juste deux autres versets ici dont j'aimerais venir à bout aussi vite que possible. Nous sommes davantage dans les ténèbres qu'il ne l'était alors. Je sais que cela fait une heure et demie que je vous fatigue, mais ici l'enregistrement se poursuit, vous voyez. Ils sont davantage dans les ténèbres que nous. J'ai remarqué que, pourquoi cela? Le reflet de ces églises est tellement trompeur. Il ressemble à la vérité. Or, Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 24 que dans les derniers jours, les deux esprits seraient tellement rapprochés que cela séduirait même les élus, si c'était possible? Dans les derniers jours, un groupe d'élus sortirait qui formerait l'Église. Et ce que ces organisations appellent leur vérité se rapprocherait tellement du vrai que même les élus seraient séduits. Même les pentecôtistes. Maintenant, vous savez que vous n'allez pas trouver un pentecôtiste avec une doctrine méthodiste ou baptiste. Vous n'allez pas lui en parler. Il est plus avisé que cela. Vous ne tromperez pas non plus un baptiste avec une doctrine luthérienne. Vous voyez? Et vous n'allez pas non plus fausser le message conforme à la parole par quelques doctrines pentecôtistes arrondies du Père, Fils et Saint-Esprit. Et tout se fatra. Et les doctrines, les credos qu'ils ont institués dans cette organisation. Non, vraiment, vous ne les tromperez pas, car les élus ne seront pas séduits. Non. Qu'est-ce donc une tromperie? Que font ces reflets? Ces reflets conduisent l'Église dans le message du Conseil des Églises. Ce sera dans le massacre du Conseil des Églises. Ce sera le massacre final. Lorsque le Conseil des Églises et Rome s'uniront, lorsqu'elles formeront l'image de la bête, ce sera le massacre final. Et ces reflets que vous avez maintenant, regardez ce qu'ils font. Ils conduisent le peuple, ils agissent comme une chèvre. C'est pourquoi une chèvre qui conduit les moutons à l'abattage, vous, c'est toujours une chèvre qui conduit les moutons à l'abattage. Vous avez vu cela dans les parcs des abattoirs. Cette chèvre va courir juste devant le mouton afin de le conduire. Puis, elle sautera de côté et laissera le mouton y entrer dans l'abattage. Vous voyez, c'est ce qu'elle fait. Elle agit toujours ainsi. Ce sont les chèvres qui ont conduit Jésus, l'agneau, au massacre. Ce sont les chèvres romaines qui ont fait cela. C'est vrai. Ce sont les chèvres dénominationnels qui aujourd'hui conduisent les moutons innocents dans le massacre. Ils mettent leur nom dans les registres et c'est ce qui les perd. C'est la marque de la bête. C'est au nom du Seigneur que je parle. Cela fait longtemps que je retiens cela. C'est vrai, c'est exactement cela. Qu'est-ce que la bête? Qu'est-elle? C'est la hiérarchie romaine. C'est la première organisation. Elle en est la marque. Quelle en est la marque? Quelle est la marque de cette hiérarchie romaine? C'est la même chose. Exactement. C'est exactement la même chose qu'autrefois. Le massacre vers le reflet. Mais à travers les ténèbres actuelles, nous continuons de voir briller la lumière de Dieu. Combien nous en sommes reconnaissants. Écoutez attentivement, nous avons vu la lumière, la parole promise pour ce jour qui était prouvée et authentifiée. C'est la vérité, c'est la lumière de l'heure. Oh, je suis tellement heureux. Il n'y a là rien de faux. Il n'y a pas très longtemps, un pasteur d'ici racontait qu'il était descendu en Floride lorsque sa voiture, je crois que c'était une Chevrolet, tomba en panne et il ne put la réparer. Il alla donc dans un garage. Le petit mécanicien allait sous la voiture, regardait dessus, tapotait de ci, de là, mais il ne pouvait la réparer. Il essaya quelque chose, mais cela ne donna rien. Il essaya autre chose, sans plus de succès. Il mit un générateur, il mit des bougies, il mit des vis platinées, il ne parvenait pas à remettre la voiture en marche. Vraiment, il n'y arrivait pas. Finalement, un homme bien habillé s'approcha et dit, « Puis-je vous donner un conseil ?» Le petit mécanicien eut le bon sens de dire, « Oui, monsieur. » Il dit alors, « Vous prenez ceci, puis ceci et cela. Vous assemblez le tout et vous essayez. » Le mécanicien fit ainsi et la voiture se mit en marche. Le petit mécanicien se retourna et dit, « Mais qui êtes-vous donc ?» C'était l'ingénieur en chef de General Motors. C'est lui qui avait conçu la chose. C'est lui qui en avait fait les plans. Et quand aujourd'hui nous parlons, de baptistes, de méthodistes, de présbytériens, l'ingénieur en chef est là, c'est le destinateur de sa parole. C'est celui qui a créé les cieux et la terre, c'est celui qui a conçu son église. Ne sait-il pas mieux que l'église méthodiste et baptiste ce qui est nécessaire à l'enlèvement? Ou bien est-ce l'église qui en sait plus long que lui à ce sujet? Il est celui qui en fait les plans. Il connaît ce qui est nécessaire. Il sait ce qui est nécessaire. Il sait parfaitement revêtu. Il est parfaitement revêtu de la puissance de sa résurrection. Alléluia. Revêtu de la puissance de sa résurrection. Il marche aujourd'hui au milieu de nous. Il sait ce qui est nécessaire pour préparer l'église pour l'enlèvement. À l'enlèvement, c'est lui qui en a fait les plans et en a rassemblé les éléments ici dans la Bible. Laissez simplement le courant circuler au travers de cela, puis regardez le opérer. Laissez la foi en sa parole promise pour ce jour se déverser là au travers de cela. Et vous verrez de quelle manière cela fonctionne. Pourquoi? C'est lui qui en a établi les plans. Il a établi les plans de son église pour le moyen de sa parole, par le moyen de sa parole. C'est ainsi qu'il l'a assemblé. Non pas selon les organisations méthodistes, presbytériennes ou pentecôtistes, mais selon sa parole. Elle est faite selon sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Certainement, sortez donc de leur reflet. Il me reste environ 5 minutes. Au milieu des ténèbres dans lesquelles nous vivons, qui va faire sortir la petite épouse? Qui est capable de le faire? Le dessinateur en chef. Oh oui, de toute cette confusion de reflets, c'est lui-même qui est capable. Voici les méthodistes qui éblouissent d'une manière, les baptistes d'une autre, les professionnels d'une autre, les pentecôtistes d'une autre. Voyez-vous ces reflets-là autour? Et les hommes courent inscrire leur nom dans ces reflets. Oui, venez découvrir quelque chose ici ou là. Venez par ici, c'est tout cela. C'est ce qu'ils disent. C'est comme je l'ai dit à ce prêtre. Si vous êtes tous l'église primitive et si vous avez suivi la doctrine de ces hommes de Nicée, comment se fait-il que vous n'avez pas la puissance qu'ils avaient au commencement? Pourquoi ne faites-vous pas les mêmes choses qu'ils ont faites et que Jésus a dit qu'il ferait? Wow, dit-il, nous sommes plus nombreux à présent. Nous vivons dans un âge différent. Je dis, mais la parole ne change pas, ses signes les suivront tout au long des âges. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Voilà, il dit, oh, vous parlez de la Bible. Je dis, oui, la parole qui est Christ, c'est vrai. Et vous, dit, voilà, vous voyez. Voyez tous ces reflets. Les méthodistes montrent le leur, les baptistes le leur, les professionnels le leur, chacun devenant de plus en plus grand. Où en est la pauvre petite épouse dans tout cela? Elle vint au moment à l'unité de la Pentecôte, y inscrivit son nom et dit, je viens pour voir ce qu'ils font. Les voici qui disent, vous devez appartenir à notre groupe. Si vous n'adhérez pas à notre église, vous ne faites même pas partie de l'épouse. Vous n'êtes absolument rien. Puis elle est allée dans les assemblées pour voir ce qu'ils avaient. Vous y voilà de nouveau. Elle est allée chez les baptistes pour voir ce qu'ils avaient. Elle regardait à ceci et à cela. Que va-t-il advenir de cette pauvre petite? Vous voyez, mais elle va paraître. Ne vous en faites pas. Elle va être là. Il y a quelques années, un homme racontait qu'il était dans l'état de New Mexico. J'ai tenu une réunion là près des cavernes de Carlsbad. Vous en avez entendu parler. Un homme, sa femme et un groupe d'enfants prirent l'ascenseur et descendèrent au fond du puits. Et lorsqu'ils furent arrivés là, on éteignit toutes les lumières. Et lorsqu'ils eurent éteint, il fit noir, une nuit noire. Ma femme et moi-même étions aussi un jour dans ces jardins et une autre fois dans le Colorado. Et ils firent la même chose. Ils éteignirent les lumières et vous ne pouviez même pas distinguer votre main. On ne voyait absolument rien. Il y avait là une petite fille qui se mit à crier. Elle avait terriblement peur. Il faisait tellement sombre. La pauvre petite cherchait partout à tâtons et appelait son papa et sa maman de tous côtés. Elle ne pouvait pas supporter qu'il fasse aussi sombre. Elle n'avait jamais vu de pareilles ténèbres. Et il en est ainsi maintenant, c'est vrai. Il fait si sombre que vous ne savez pas où aller. Que vous alliez vers les méthodistes, vers les baptistes ou vers les presbytériens, c'est pourtant la même chose. C'est partout la même chose. Vous voyez, ils se nourrissent de cette vieille manne morte, pourrie et pleine de vers. Vous voyez, c'est la même chose, c'est le même credo. Entrez et joignez-vous à ceci et à cela, dit-il, de vieux credos et d'autres. Vous ne voyez pas Christ dans tout cela. Vous ne voyez pas Christ dans tout cela. Vous n'y trouvez que des propres justes. De leur propre justice. Il y a beaucoup de gens très bien dans cette dénomination, c'est vrai. Ce ne sont pas les gens que je critique, mais le système. Vous voyez, ce sont ceux dont ils se nourrissent. Dites-leur qu'il y a ici de la nourriture fraîche. C'est ce qu'ils doivent entendre. Et cette petite fille qui se tient là, elle crie à tue-tête. Elle est sur le point de faire une crise de nerfs, un peu comme la petite épouse. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Son petit frère lui a crié: « Petite sœur, n'aie pas peur. » Il se trouvait près de l'ingénieur. « Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, » a dit. « N'aie pas peur, petite sœur. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il peut faire vivre cette parole. Vous ne savez pas comment ni quand il vient. Je ne sais rien à ce sujet, mais il est là. » Et il peut allumer la lumière. Comment allons-nous nous sortir de cela? De là, je n'en sais rien. Mais il est là et il est celui qui peut allumer les lumières. Certainement, il est l'unique. Il est la lumière. Il se fait simplement connaître. C'est ainsi qu'il allume la lumière. C'est tout à fait exact. C'est à Christ qu'il appartient de faire briller ses lumières afin que toutes les ténèbres se dissipent. Il opère une séparation, il fait sortir sa petite épouse. Je tirerai un peuple d'internation pour l'amour de mon nom et qui portera mon nom. Quel est son nom? Certainement pas méthodiste, baptiste, professionnel, littéraire. C'est Jésus-Christ, c'est vrai, c'est ça son nom. Il est la lumière, la vérité, la vie. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Quand il entre, il dissipe les ténèbres. Car il est la parole. La parole est la lumière. C'est juste. Car il a parlé et dit qu'il y ait de la lumière. Et ce fut la parole qui devint lumière. Alléluia. Et la vie, c'est ça la lumière. La vie de la parole manifestée dans le croyant. Quand il prononce ses paroles, c'est à chaque fois la lumière pour l'âge. Maintenant, il est là. Non dans un reflet. Les gens vivent dans un reflet. Mais il est la parole authentifiée. Il est vraiment la lumière dans ce temps de ténèbres, certainement. Tous ces reflets et autres choses vont disparaître. Certainement, il est là. Ne craignez rien. Allumez la lumière de sa parole promise. Elle est vivante. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. C'est donc la parole. comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Le Père qui l'a envoyé vint en lui. Le même Jésus qui vous envoie vient en vous. Il fait les mêmes œuvres qu'il fit alors. Pourquoi? La parole est faite chair, se manifestant dans une chair humaine comme étant la lumière du jour. Nous y sommes maintenant. Voici, elle montre simplement le chemin de la vie dans la lumière. Les hommes sages qui ne sont pas aveuglés par des credos et des dénominations marcheront dans cette lumière. Oh oui, frère, il y a ici un homme qui peut parfaitement allumer cette lumière. Comment le fait-il? En authentifiant sa parole pour ce jour. Jésus, le Fils de Dieu, qui a promis la parole pour ce jour, est juste là avec nous. N'ayez pas peur. Ne prêtez aucune attention à ce qu'ils font. Sinon, vous marcherez dans les ténèbres. Soyez sages. Daniel dit, ceux qui seront sages accompliront en ces derniers jours des exploits pour leur Dieu. Vous voyez, ils marcheront dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Ne vous faites pas de soucis et faites peu. Il fait peut-être sombre. On dirait qu'il veut nous contraindre. Vous voyez, il proclame que toutes ces petites églises doivent entrer maintenant. Vous voyez, il proclame cela, que toutes ces petites églises doivent entrer maintenant. Vous devez entrer. Sans quoi, ils fermeront vos portes. C'est ce qu'ils feront. Oui, si vous n'entrez pas dans le conseil mondial de l'église, ils fermeront vos portes. Ce soir, lorsque j'en viendrai à ce temps-là, nous insisterons vraiment là-dessus. Vous voyez, à présent, nous allons conclure. Vous devez être l'un d'eux, ou bien vous serez là-dedans, ou bien vous ne pourrez rien faire, pas même acheter ou vendre. C'est juste, vous n'oserez même pas prier pour les malades. Si on attrape une personne qui prie pour les malades ou qui agisse sur le plan spirituel, elle tombera sous le coup d'une loi fédérale et qui doit être exécutée. C'est absolument vrai. Vous le savez, c'est vrai. C'est écrit dans leurs journaux. Mais oui, vous ne pourrez donc rien faire. Vous devriez appartenir à leur culte et à leur conseil. Frère, laisse-moi te dire quelque chose. Reçois maintenant Christ dans ton cœur, car il viendra un temps où tu en auras vraiment besoin. Ce n'est pas encore le moment. Mais rappelle-toi que lorsque ce scellement sera sur toi, il y sera pour de bon. Alors ne fais pas cela. Ne crois pas à tous ces fatras. Viens directement en Christ et cela maintenant. Viens à la parole originale révélée dans ce temps de la fin, pour l'heure dans laquelle nous vivons. Certainement, cela authentifie la parole et montre qu'elle est la lumière de l'heure. C'est ainsi que nous aussi savons qu'il est la lumière, parce qu'il est la lumière qui s'est manifestée dans la chair. Comment le savez-vous? Il était la parole de Dieu faite chair. Vous voyez, la parole de Dieu se montrait, se confirmant elle-même, se montrait. Quand le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. La femme près du puits dit, quand le Messie viendra, il fera ces choses. Tu dois être le prophète qui est la parole, nous prédisant toutes ces choses. Il dit, je le suis. Cela suffisait. La lumière brilla sur la parole promise. Il y a ici une lumière. Elle alla directement à la ville et dit, venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? C'était cela. Vous voyez, peu importait ce que les autres disaient, elle savait que c'était le Messie. Souvenez-vous que dans chaque âge des ténèbres, Dieu a toujours eu sa parole pour séparer la lumière des ténèbres. Il avait sa parole au temps de Luther, alors que l'Église catholique possédait tout. Il envoya Luther comme une lumière resplendissante. Et Luther sépara la vérité des ténèbres. Et lorsque les luthériens eurent dévié, Dieu suscita un John Wesley. Et il sépara la lumière des ténèbres. Et au jour de Pentecôte, lorsque les Wesleyens, les méthodistes, les baptistes et les presbytériens se furent tous encroûtée. Il envoya le message de Pentecôte pour séparer la lumière des ténèbres. Puis la Pentecôte retourna ainsi directement dans les ténèbres de leur organisation. Elle prit leur credo et toutes ces choses. Maintenant, l'heure est venue pour que cette parole soit confirmée. Il envoie la lumière, la parole rendue manifeste, comme le fit au début. Il envoie la parole qui se manifeste elle-même. Il y a de la lumière. Il effectue toujours une séparation. C'est la même vie éternelle maintenant qu'au commencement. Il est toujours présent parmi son peuple. Sa présence ne fait jamais défaut. Il est toujours là. Il peut allumer la lumière. Certainement, il attend simplement de voir ce que vous allez faire. Il peut tourner le commutateur chaque fois qu'il le veut. Certainement. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Et ceux qui sont installés dans les régions de l'homme de la mort, les uns parce qu'ils ont un cancer, les autres parce qu'ils sont dans la mort d'une dénomination, dans la mort de credo ou de tradition ou dans toutes sortes de morts, ont vu une grande lumière. L'homme qui a allumé la lumière est le même qui a dit au commencement que la lumière soit. Ce Dieu qui demeure le même hier, aujourd'hui et pour toujours est présent aujourd'hui. Il est là maintenant. Ne craignez pas. Il peut allumer la lumière. Lorsque la persécution viendra, ne craignez rien. Voici une lumière qui dit qu'il enlèverait son peuple. L'épouse ne traversera pas la tribulation. Non, jamais. Elle n'aura affaire à cela. Cela, c'est ce qu'il a dit. L'épouse sera enlevée. Abraham, comment ferons-nous? Tout semble simple, terriblement sombre. Peu importe combien les ténèbres deviennent épaisses, même si vous ne pouvez pas voir votre main, rappelez-vous simplement qu'il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, qui peut enlever cette église. Shadrach, Meshach et Abednego se dirigeaient tout droit vers la fournaise ardente, mais il y avait là un homme qui pouvait mettre la ventilation en route. Certainement, ce vent puissant qui souffla violemment le jour de Pentecôte, il le leur envoya afin de chasser toutes ces braises et tout ce feu loin d'eux. Il y avait là un homme. On l'appelle le quatrième homme. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui. Il est l'unique. Alléluia. C'est lui qui tient le commutateur dans sa main. Et une grande lumière s'est levée sur ceux qui sont dans la vallée de l'homme de la mort. Ne le rejetez pas. Recevez-la dans le nom du Seigneur. Tandis que nous inclinons un moment la tête. Tandis que vous avez la tête inclinée, je me demande combien ici aimeraient marcher dans cette lumière sous la conduite de cet esprit qui est la parole confirmée pour ce jour. Vous voyez, la parole que Dieu a promise aujourd'hui et que l'on voit manifester. N'est-ce pas ce qu'il était au commencement? Il était la parole. Le Fils est né. Il était la parole. Il était le Messie. Il était la parole authentifiée. C'est Dieu qui a parlé du commencement à la fin. Maintenant, il y a une parole pour ce jour et il est là confirmée. Et il est là. Confirmant cette parole au milieu de la confusion des ténèbres et des reflets. Tout cela ressemble à la parole, mais cela ne l'est pas, car aucune dénomination n'a été faite. Jamais dit. Jésus dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, par qui le chassez-vous? Il ne les chassait pas, vous voyez. Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous voyez, oh, pensons à cela tandis que nous levons les mains. Pensons-y tranquillement. Chaque âge a toujours été le même. Que firent ceux qui rejetaient la lumière au jour de Noé? Ils marchèrent au devant du jugement de Dieu. Qu'arriva-t-il à Pharaon du temps de Moïse? Lorsque la lumière brillait dans le buisson ardent, il entra dans la mer qui causa sa mort. Qu'arriva-t-il à Dathan qui commença bien puis rejeta la lumière? La terre se fendit et l'engloutit. Qu'arriva-t-il à chaque époque à ceux qui ne marchaient pas dans la lumière du jour? C'est toujours Jésus. C'était Jésus au jour de ces hommes. C'est Jésus aujourd'hui car il est la parole et la parole fait jaillir la lumière. C'est la lumière du jour. Pensez-y maintenant. Et très calmement et demandez-vous sincèrement, est-ce que je marche dans la lumière tandis que nous fredonnons de nouveau ce cantique? Levons-nous maintenant, Père Céleste. je te prie afin que ce message pénètre profondément le cœur de ceux qui sont ici présents et dans ceux qui écouteront les bandes. Puisse la lumière éclairer la parole, la semence et révéler toute semence prédestinée qui a été plantée dans ces différents reflets et organisations. Puisse-t-il voir comme Nicodème, même s'il doit venir de nuit, venez à la lumière, accorde le Père. Puis ce grand événement du rocher qui se détache de la montagne sans l'aide d'une main se produire. Il écrasa complètement les royaumes des nations, tous ces royaumes spirituels ou naturels, et le rocher remplira la terre entière. Ce sera une affaire de purification. Ceux sur qui tombera ce rocher seront pulvérisés. Ceux qui tomberont sur ce rocher auront un fondement solide. Ô Christ, en tant que ton serviteur, laisse-moi mourir sur ce rocher, le rocher de ta parole. Seigneur Dieu, permet que, comme David et ses guerriers de jadis, qui lui sont restés fidèles, je soutienne cette parole d'aujourd'hui, tandis que je vois les dénominations la rejeter. Elle demeure cachée quelque part dans une petite retraite. Ô Dieu, accorde-nous la force, le courage et le Saint-Esprit pour tenir bon, car l'heure est de plus en plus sombre. Mais nous puissions toujours nous souvenir que tu es présent pour allumer la lumière à n'importe quelle heure que tu le désires. Tu peux allumer la lumière, Père. Nous prions donc, car tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Accorde-nous, Seigneur, que nos lumières qui sont à ton service éclairent tellement les autres qu'ils voient la lumière de l'Évangile tel que nous le vivons. Pour jour après jour, réfléchissant pour eux la vie de Jésus-Christ comme il était sur la terre. Humble et doux, mais cependant avec la parole vivante en lui, accorde-le-nous, Seigneur, car nous regardons à toi, l'être glorieux qui tient le commutateur, le bouton dans sa main. Tu tiens le monde dans ta main. Tu tiens toutes choses dans ta main, un soutien, et soutiens le monde par ta parole. Ô Père, que nous recevions la parole s'il te plaît, Seigneur, que ce soit le témoignage, le désir de chaque cœur ici. Père, pendant que nous chantons ces cantiques, David a chanté les hymnes qui devinrent des prophéties. C'était des prophéties et tu les reconnus comme telles. Tandis que nous les chantons, Seigneur, que nos cœurs soient pénétrés par ces paroles. Nous marcherons dans cette lumière. Que cela soit vrai, Seigneur. C'est une merveilleuse lumière. C'est la parole, c'est Christ vivant parmi nous. Non tel qu'il était, mais tel qu'il est. Et nous savons que ce qu'il était reflétait seulement ce qu'il est. Et nous te prions, Père, afin que les gens comprennent et marchent dans cette merveilleuse lumière. Nous te le demandons au nom de Jésus. Si il y a un auditoire mêlé, mais sachez que je ne parle pas contre ceux qui sont dans ces reflets, mais j'ai prouvé par la Bible que ce sont des reflets. Si ce n'était pas le cas, Christ agirait avec eux selon ce qu'il a promis. Christ est la parole, il est la lumière. Vivez maintenant pendant que vous pouvez vivre. Pourquoi ne pas vivre pour vivre? La seule façon pour vous de vivre, c'est d'accepter la parole. Maintenant, la parole qui sort de la bouche de Dieu est confirmée ici même, sous vos yeux, par le Saint-Esprit. Vous ne voulez-vous pas vivre par elle? Cette lumière, la colonne de feu faisant les mêmes choses que celles qu'il fit quand il était sur la terre pour accomplir sa parole. Remerciez Dieu pour cela.